Vous êtes sur RTL.
C'est Jérôme Flora maintenant qui va s'occuper de vous jusqu'à 9h30. Bonjour Jérôme.
Bonjour Julien, merci. Et merci à toute l'équipe des petits matins. À demain.
À demain.
Et bonjour à tous, que vous soyez ou non d'ailleurs des enfants du 10 mai 81. C'était il y a 40 ans. La gauche arrivait pour la première fois au pouvoir sous la 5e République.
On nous dit que Lionel Jospin, le premier secrétaire du Parti Socialiste, fait une déclaration. Peut-être pouvons-nous nous brancher.
Ce 10 mai est un jour de joie pour ces militants âgés que j'ai rencontrés dans les réunions, dans les meetings, et qui nous disaient « Est-ce que je verrai un président socialiste ?»
Lionel Jospin, le soir du 10 mai 80, il sera avec nous à 7h40 au micro d'Alba Ventura pour évoquer cette journée si particulière qui résonne encore aujourd'hui. À 7h15, reportage édifiant dans le quartier de Stalingrad à Paris, refuge des consommateurs de crack. La tension est montée d'un cran ces derniers jours. Où en est la lutte contre le trafic de drogue? On fera le point avec la brigade dans la foulée. Et puis on parlera à 8h20 d'une entreprise française qui marche du feu de Dieu d'ailleurs. Dassault, méga contrat passé avec l'Égypte pour ses rafales. Le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, sera avec nous à 8h20. Bon réveil, merci de votre fidélité à RTL, il est 7h.
RTL Matin, Jérôme Flora.
Le journal, c'est avec vous, Dominique Tenza, bonjour.
Bonjour Jérôme et bonjour à tous.
Et c'est l'information de la nuit, deux arrestations hier soir près d'Avignon dans l'enquête sur la mort d'un policier mercredi.
Deux hommes soupçonnés d'être le tireur et son complice, ils s'apprêtaient à fuir vers l'Espagne. Les derniers détails de l'enquête dès le début de ce journal. Le nombre de patients dans les services de réanimation continue lui de diminuer, moins de 5000 désormais, la décrue est cette fois bel et bien engagée. Des bons d'achat et des glaces contre un vaccin en Russie, tout est bon, vous l'entendrez, pour inciter la population, même si Spoutnik peine à convaincre. Et puis une fin de saison décidément compliquée pour le Paris Saint-Germain, tenu en échec hier soir à Rennes, et l'espoir d'un titre qui s'éloigne encore un peu plus.
Après le journal, la politique avec vous Olivier Bost.
Il n'y aura probablement pas de référendum sur l'écologie, et si finalement cela n'arrangeait pas tout le monde.
RTL Matin.
Il n'aura fallu que 4 jours de traque pour permettre hier soir l'arrestation de 2 suspects, 2 hommes soupçonnés d'être impliqués dans le meurtre mercredi d'Éric Masson, ce policier père de famille tué lors d'un contrôle de stupéfiants dans un quartier d'Avignon. Avec nous en studio, le chef du service police-justice de RTL. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
C'est d'ailleurs tout près d'Avignon que les deux hommes ont été interpellés.
Absolument, au niveau du péage de Rémoulins sur l'autoroute A9, c'est à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Avignon. Les deux suspects s'enfuient en voiture en direction de l'Espagne. En effet, selon plusieurs sources policières, vers 22h30, les brigades de recherche et d'intervention de Marseille et Montpellier ont intercepté le véhicule, semble-t-il, en douceur. À l'intérieur, le tireur présumé est un complice. Alors l'homme suspecté d'avoir abattu Éric Masson avait en fait été identifié dès ce week-end. Depuis, la PJ était en planque pour identifier ses soutiens. C'est lorsque les enquêteurs ont vu que ça bougeait, que les suspects prenaient la tangente, que l'interpellation a été décidée. Le duo est désormais en garde à vue. À ce stade, on sait peu de choses sur leur profil, si ce n'est qu'au moins l'un d'eux est connu des fichiers de police, possiblement pour trafic de stupes.
Deux suspects donc pour l'instant. Thomas, d'après vos informations, les opérations se poursuivent en ce moment même, car l'enjeu c'est bien de trouver des preuves formelles de leur implication.
Oui, des perquisitions notamment sont prévues dans la matinée. L'entourage des suspects s'attend également à être entendu. Les enquêteurs disposeraient déjà de preuves matérielles sur le tireur présumé, mais ils veulent absolument bétonner leur dossier. Il n'y avait pas de caméra de surveillance dans la zone où Éric Masson a été tué, et les rares témoins n'auraient pas vu le visage des tueurs. Les policiers ont encore une quarantaine d'heures pour obtenir des aveux.
Merci Thomas Proutot. Un peu plus tôt dans l'après-midi, une cérémonie d'hommage s'est tenue devant le commissariat d'Avignon, à laquelle plusieurs centaines de personnes ont participé. Une minute de silence a été respectée face au portrait d'Éric Masson, ce père de famille mort en service. Alain est venu se recueillir, ancien policier, il connaissait bien la victime.
L'histoire récente nous rappelle à Rambouillet comme Avignon que ce métier est extrêmement difficile. Je l'ai exercé avec bonheur et en ayant, disons, cette vocation comme Éric, son père, son frère et sa sœur peuvent l'avoir. Beaucoup de tristesse parce que je le connais, puis il laisse une veuve et 2 enfants bas âge. Donc, vous savez, un policier, il est là pour défendre la veuve et l'orphelin. Donc, ça nous touche à double titre.
Un témoignage recueilli par Samia Belbachir pour RTL. Demain, c'est un hommage national qui sera rendu par le Premier ministre Jean Castex, qui dès ce soir d'ailleurs recevra à Matignon les syndicats de police.
RTL, il est 7h04. La reprise ce lundi du procès de Nordal Lelandais.
Avec à la barre le témoignage très attendu des psychiatres, ce qui devrait permettre de mieux cerner le caractère de l'accusé qui maintient pour l'instant sa version. Il n'a jamais voulu tuer Arthur Noyer. Il s'agissait d'une bagarre qui a mal tourné. La défense de Nordal Lelandais a pourtant été mise à mal toute la semaine dernière par une série de témoignages des proches, des ex, qui tous et toutes décrivent une personnalité aux réactions parfois imprévisibles. Anne Le Hénaff.
Deux psychiatres ont décelé chez lui une indifférence froide envers les sentiments d'autrui, une très faible tolérance à la frustration et une incapacité à éprouver de la culpabilité. À la barre, plusieurs de ses ex ont décrit un homme impulsif, menteur pour Céline, violent, menaçant, jaloux et possessif pour Vanessa. D'autres n'ont rien remarqué de spécial, à part un appétit sexuel très important. Le soir où il a tué Arthur, il a cherché toute la journée à convaincre par SMS un amant, puis une amante, d'avoir une relation sexuelle avec lui. Ses amis, encore sonnés, parlent d'un super gars, toujours prêt à rendre service, qui a un peu besoin de se mettre en avant. Il a parlé d'un épisode dans l'armée, raconte une proche, où on lui a demandé de tirer sur des enfants alors qu'il était maître chien dans la Marne. Il a caché à tous qu'il prenait de la cocaïne. C'est donc un homme qui s'arrange parfois avec la vérité, Lelandais, mais pas sur la mort d'Arthur. « J'ai jamais cherché à le tuer », dit-il. Et ce soir-là, dans les rues de Chambéry, il ne traquait pas une proie mais des amis. « Il n'y a rien eu de sexuel avec Monsieur Noyer ». Rien du tout.
Anne Le Hénaff qui suit ce procès devant les assises de Savoie pour RTL.
La vaccination de nouveau élargie cette semaine.
Ouverte dès ce matin à toutes les personnes de plus de 50 ans, quel que soit leur état de santé. Et puis à partir de mercredi, après-demain, ce sont tous les plus de 18 ans qui pourront y avoir accès en réservant la veille pour le lendemain, à condition qu'un créneau soit encore disponible. L'objectif, c'est de ne gâcher aucune dose.
Et puis cette question ce matin, vaccinera-t-on un jour en France avec le Sputnik V, le fameux vaccin russe?
Eh bien l'idée, en tout cas, est dans les tuyaux. Les experts de l'Agence européenne du médicament sont attendus en Russie aujourd'hui pour une tournée des usines de fabrication. Les résultats semblent prometteurs, même si ce vaccin et le mystère qui l'entoure suscitent pas mal de méfiance, y compris d'ailleurs en Russie. Vous allez l'entendre, on ne se précipite pas pour recevoir l'injection, et ce n'est pas faute d'inciter les candidats. Reportage à Moscou de Félix Grasso.
Victor, la cinquantaine, a choisi un centre commercial du centre de la capitale pour se faire vacciner, mais s'il le fait avec 6 mois de retard sur le début de la campagne, il tient à se justifier.
J'ai tout de suite voulu me faire vacciner, mais je me suis fait refaire les dents et à cause de ça, j'ai été empêché. J'ai une opération et on m'a interdit le vaccin. Je veux pas de ce cadeau.
En effet, Victor refuse la glace qu'on lui tend, comme à tous ceux qui se font vacciner dans ce centre. Une façon d'inciter la population à se faire vacciner, en plus de la gratuité de la procédure. Les personnes de plus de 60 ans reçoivent, elles, un bon de 10 euros à faire valoir en pharmacie ou dans un supermarché. Mais malgré cela, comme Fyodor ou Aliona, la population reste sceptique.
Je suis pas prêt.
C'est pour raison médicale, je nourris encore mon enfant, c'est pour ça que je l'ai pas fait.
Les mentalités évoluent pourtant progressivement au contact des malades, comme l'explique Katia.
Beaucoup de mes connaissances ont été malades, toutes avec des conséquences différentes. Il vaut mieux se faire vacciner plutôt que de subir des effets secondaires.
À ce jour, environ 8 des 145 millions de Russes ont reçu au moins une dose.
Félix Grasso, le correspondant de RTL à Moscou. Et puis cette barre symbolique qui confirme la décrue de l'épidémie en France. Il y a désormais moins de 5000 personnes en réanimation. Elles étaient 6000 il y a 15 jours.
Des purificateurs d'air pour équiper les restaurants avant la réouverture. Comment ça marche? On va vous expliquer tout ça dans un instant. A tout de suite, bon réveil, il est 7h08.
RTL Matin.
Alors que les commerces, les salles de spectacle et les terrasses des restaurants s'apprêtent à ouvrir, ce sera mercredi de la semaine prochaine, certains font tout pour assurer leur future clientèle, Dominique.
Et voici justement un appareil qui pourrait largement y contribuer, le purificateur d'air. Il faut compter environ 1000 euros, mais l'investissement est indispensable pour le patron du Jardin des Saveurs à Saint-Vulbas dans l'Ain. Le reportage de Raphaël Vantard.
À côté du maître d'hôtel, il attend lui aussi les clients à l'entrée du restaurant. Mais lui n'est pas là pour vous guider à votre table.
C'est on-off. Il y a une vitesse forte et une vitesse basse, plus silencieuse.
50 cm de haut, 20 cm de large. C'est le purificateur d'air que vient d'installer Hugo Delcourt d'IDR Group, une entreprise spécialisée dans le traitement de l'air.
Quand je vois une pièce comme ça, je me dis il y a beaucoup de gens qui vont se croiser, qui vont venir là, qui vont manger sans masque. On ne maîtrise pas ce qui se diffuse dans l'air. On a mis la purification de l'air, qui là est un traitement constant,
Parce que là, c'est cette tour hein, qu'on voit.
C'est cette tour-là, l'objectif, c'est de capter en permanence tous les polluants pour réduire au maximum leur présence dans l'air.
Alors, on va regarder le deuxième appareil, du décontamination.
L'autre, c'est de la décontamination. Donc, ça permet de pouvoir traiter tous les soirs après sans avoir à nettoyer de partout avec des lingettes, avec de la chimie et passer des heures à faire un nettoyage complet de toutes les chaises, de toutes les tables qui parfois est fastidieux, quoi.
Ces deux appareils, Dany Garcin, le patron du restaurant, apprend à les manier en cuisine et en salle. Il sait que cet investissement est nécessaire pour le retour des clients.
On avait peur par rapport à la distanciation sociale et tout, que les clients n'aient pas envie de venir à l'intérieur des restaurants. Et nous, aussi bien pour nos employés que pour nos clients, c'est une sécurité, quoi.
Pour être sûr que ses habitués voient les efforts, Dany place une grande pancarte purification d'air devant chacun de ses nouveaux appareils.
Raphaël Vontard.
RTL 7h11, c'est une date qui a marqué la vie politique, celle de la 5e République et que de nombreux Français gardent encore en mémoire.
Le 10 mai 1981, François Mitterrand devenait président de la République en battant, avec près de 52% des voix, le président sortant Valéry Giscard d'Estaing. C'était il y a 40 ans, la gauche prenait le pouvoir, un anniversaire que l'actuel chef de l'État envisageait de célébrer. Emmanuel Macron avait même lancé une année Mitterrand en 2021. Il a finalement changé d'avis, William Galibert.
Oui, la date était pourtant cochée, mais Emmanuel Macron s'est finalement ravisé. Pas de discours, pas de geste symbolique, simplement une invitation lancée aux anciens collaborateurs de François Mitterrand à l'Élysée, qui seront reçus à la fin du mois. En fait, ce 10 mai ne tombe pas très bien dans l'agenda et dans les plans d'Emmanuel Macron. Difficile de rendre hommage au symbole de la gauche qui gagne quand on est soi-même en train de dynamiter la droite pour les élections régionales et pour la présidentielle qui s'annonce. Le message ne serait pas limpide, admettent plusieurs membres de la majorité. Alors un conseiller de l'Élysée explique que cet anniversaire de l'élection, ce 10 mai, appartient avant tout aux socialistes. Le chef de l'État devrait donc être beaucoup plus présent en octobre pour célébrer les 40 ans de l'abolition de la peine de mort, la dernière date qui avait été surlignée par l'Élysée pour cette année Mitterrand, une année qui ne se sera pas tout à fait déroulé comme prévu.
William Galibert du service politique de RTL. Une nouvelle tribune signée par des militaires et publiée hier soir sur le site du magazine Valeurs Actuelles. Une fois encore, les auteurs appellent à un sursaut pour, je cite, « la survie du pays », à la différence du précédent texte écrit par des militaires à la retraite. Cette fois, ce sont des soldats en activité qui en sont à l'origine. Ils témoignent de façon anonyme et cette tribune est ouverte aux signatures. Près de 100 000 réunis en quelques heures.
Le football et la mauvaise opération du PSG hier soir à Rennes.
Quelques jours après leur élimination en Ligue des Champions, les Parisiens tenus en échec hier soir face au Stade Rennais, un partout. Ce sont deux points qui s'échappent et sans doute le rêve d'un nouveau titre de champion de France, puisque Lille en compte désormais trois points d'avance. Philippe Audouin.
En 5 jours, Paris a peut-être compromis sa saison. Après avoir été sorti de la Ligue des Champions mardi, le PSG est sur le point de craquer dans la course au titre. Hier à Rennes, c'est un petit Paris Saint-Germain qui a concédé le nul sans Mbappé et avec un Neymar à côté de ses crampons. L'entraîneur breton Bruno Genesio a presque été surpris du niveau parisien hier soir.
Je pensais qu'ils allaient avoir une réaction un peu plus forte après notre égalisation, mais je pense qu'ils n'en avaient pas forcément les moyens. Je pense que vu la dynamique de Lille, a priori ça va être difficile pour Paris, mais de toute façon, on est toujours à la place qu'on mérite. Donc si Lille est champion, c'est qu'ils auront mérité leur titre.
Difficile d'en dire autant pour un PSG battu 8 fois cette saison en championnat. Un Paris Saint-Germain sur le point de céder son titre pour la 3e fois en 10 ans sous pavillon qatari.
Philippe Audouin.
Les courses, ça s'inclut aujourd'hui.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 2, le 7, le 8, le 4, l'As, le 14 et le 6. La dernière minute, c'est le 7 Investor.
Dans le journal de Dominique Tenza. Merci Dominique. Bonjour Olivier Bost.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Alors il n'y aura pas de référendum sur l'écologie et si cela pouvait arranger tout le monde finalement?
Oui, il y a des jeux politiques, un renoncement où chacun peut trouver une satisfaction. Emmanuel Macron, même s'il fait mine d'y croire encore, la droite sénatoriale et les écolos ne seront pas forcément fâchés que cette évidence finisse par s'imposer. Il n'y aura pas de référendum sur l'écologie. S'il est inutile d'entretenir le suspense, les différentes parties concernées risquent quand même de faire durer encore un peu le plaisir. Il faut refiler à son voisin la responsabilité de l'échec.
Alors pourquoi pour Emmanuel Macron un échec serait-il une bonne nouvelle?
Eh bien parce que la majorité a bien l'intention de pointer la responsabilité d'une droite très conservatrice. Elle aura bloqué toutes les réformes constitutionnelles du quinquennat. Pour l'organisation d'un référendum, il faut en effet que les députés à majorité En Marche et les sénateurs à majorité des Républicains votent le même texte. Nous savons déjà que ce ne sera pas le cas. Il peut certes y avoir des allers-retours sans cesse jusqu'à la fin du quinquennat, mais ce week-end, c'est bien un échec que semblaient acter toutes les parties.
Et donc, ce sont les sénateurs qui vont emporter la responsabilité.
Oui, les sénateurs maîtrisent l'art d'expliquer qu'ils sont l'assemblée de la sagesse. Ils ont de vrais arguments pour modifier le texte du référendum. Dans la Constitution, la Convention citoyenne sur le climat voulait écrire que la France garantit la préservation de l'environnement et de la biodiversité et lutte contre le dérèglement climatique. Ce n'est plus un objectif, mais une vraie contrainte. Le Sénat redoute en fait que l'environnement devienne plus important que les autres libertés, inscrites elles aussi dans la Constitution. Les sénateurs passeront peut-être pour des conservateurs, mais ils auront préservé l'économie.
Alors là, il faut faire une distinction entre les citoyens de la Convention sur le climat, les militants purs et durs et les écolos politiques.
Bah oui, parce que ces derniers vont se satisfaire de l'abandon du référendum. C'est pour eux une preuve supplémentaire que décidément Emmanuel Macron n'est vraiment pas écolo. Sur le glyphosate, sur la taxe carbone, sur le référendum, ses renoncements sont toujours plus importants que ses décisions.
Mais donc le bénéfice n'est pas si évident que ça pour Emmanuel Macron.
En fait, le chef de l'État a tenté un coup politique. Il a voulu encore une fois se sortir d'une situation politique compliqué et coincer ses adversaires dans leur division ou les obliger à tomber dans leur propre caricature. La Convention citoyenne sur le climat était faite pour le sortir de la crise des Gilets jaunes. Elle a ramené l'idée du référendum qui devait piéger les sénateurs. Emmanuel Macron aime les risques et les paris. Qu'importe qu'il les perde et qu'il en perde même plusieurs d'affilée, c'est le prochain pari qui compte. Emmanuel Macron ne renonce jamais. C'est le seul message qui compte.
Olivier Bost, il est 7h16. Emmanuel Macron en avait fait d'ailleurs une de ses priorités. À un an de la présidentielle, il en a fait une de ses priorités. Je parle de la lutte contre le trafic de drogue. Les policiers ont l'ordre de harceler les dealers avec des conséquences parfois dramatiques. On l'a vu à Avignon. Au-delà des discours et des polémiques, quelle est la réalité des faits, reportages et brigades à suivre juste après ça.
RTL Matin, Jérôme Florin.
RTL 7h18, des scènes de guérilla urbaine en plein Paris le week-end dernier et ce samedi soir à nouveau des tirs de mortier qui ont été constatés en plein 19e arrondissement dans le quartier de Stalingrad. Ces tirs visaient des consommateurs de crack installés ici depuis des années. On ne sait pas encore vraiment d'où ils viennent d'ailleurs. Le problème ne date pas d'hier, mais la tension est montée d'un cran ces derniers jours entre riverains et toxicomanes. Bonjour Valentin Boisset.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes allé à la rencontre de ces habitants et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont excédés.
Oui, hein, il faut s'imaginer un quartier familial au bord d'un plan d'eau, le bassin de la Villette. L'été, de nombreux Parisiens s'y retrouvent pour l'apéritif ou pour se balader et à proximité un petit parc pour enfants, le parc Éole, où des camions de CRS sont postés en journée car à l'intérieur, 150 à 200 consommateurs de crack stationnent. Alors nous y sommes allés avec une riveraine du quartier, Sylvie, il y a quelques jours.
À 100 mètres de nous, c'est la colline du crack de jour. Venez un peu plus loin, là. Alors là, on voit des seringues, on voit des petits papiers de cellophane là, sous mon pied qui enveloppent les galettes de crack.
Et on est dans un parc public.
Et on est dans un parc public.
Ce parc ferme le soir et se déplace vers chez vous.
Moi, j'habite quai de la Seine. La nuit, on est réveillé toutes les heures quand on n'a pas de chance, toutes les deux heures quand on a de la chance, par des cris, des hurlements, des bagarres.
Et on va regarder les vidéos que vous faites chaque soir depuis votre salon.
Des cris d'une femme qui faisait une overdose, des cris de loup, des cris de bête. J'ai envie de pleurer parce que je me dis, voilà, je vis dans la capitale de la France et j'ai même pas droit à dormir. J'ai vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule et qu'on accepte, si c'est à Stalingrad, mais qu'il faut surtout pas que ça aille au-delà de Stalingrad.
Alors en s'aventurant dans ce parc, il est possible de discuter avec certains toxicomanes. Ils ont conscience des nuisances, mais s'avouent démunis face à leur propre situation. Il n'existe pas vraiment de lieu d'accueil en ce moment. Un consommateur veut en parler. Il est sans domicile, n'a plus qu'un petit sac de plastique en guise de bagage. Et selon lui, la puissance du crack l'empêche de se déplacer ailleurs.
Vous savez, le monde du crack, c'est trop complexe. C'est une drogue très très puissante. Si vous vous focalisez sur le parc, il y en a, ils aiment boire leur bière. Il y en a, ils ont besoin d'une terrasse. Eh frérot, j'étais là depuis tout à l'heure.
Mais très vite, la situation se tend autour de nous.
Vous avez fait une grave erreur. Vous êtes stationné à un endroit et du coup, vous avez vu, tout de suite, on vous a demandé de l'argent. Stalingrad, ne jamais stationner. Toujours tracé.
Des tirs de mortier ont donc visé en pleine nuit ces toxicomanes ces deux derniers week-ends. Des résidents comme Marie ont créé le collectif de riverains Action Stalingrad. Selon elle, ces tensions sont inévitables.
J'ai vraiment assisté à une scène d'une femme qui se faisait frapper en plein milieu de la journée par son dealer. Heureusement, il n'y a pas eu de conséquences vitales à ces tirs de mortier, parce qu'on sait que dans notre voisinage, il y a des gens qui ont envie d'en arriver à des solutions extrêmes et on n'a pas envie de ça.
Une manifestation des riverains est même envisagée dans les semaines à venir à proximité du bassin de la Villette.
Pardon, mais ça fait des années qu'on entend parler de ce problème, Valentin. Des solutions sont-elles sur la table ?
Effectivement, les différents acteurs remontent ce problème à 2019, date de l'évacuation de la colline du Crac de la Porte de la Chapelle. Le trafic s'est ensuite déplacé. Les dealers sont aujourd'hui donc visibles en bas des fenêtres. La plupart sont aussi des consommateurs. Et lorsqu'ils sont contrôlés, la police ne retrouve sur eux que des petits cailloux de drogue, pas plus de quelques dizaines d'euros de valeur. Et ce n'est souvent pas assez pour vraiment les appréhender. Il y a quelques jours, la commissaire Florence Adam est allée à la rencontre des riverains. Excédés, ils ont tenu à l'interpeller en pleine rue.
Enfin, on connaît, on le voit, c'est toujours les mêmes. Ils sont totalement défoncés.
La réponse que je vous fais, c'est pas une opposition à ce que vous dites. Je sais qu'on n'a pas résolu le problème.
De mai à décembre 2020, 451 interpellations ont eu lieu sur le secteur. 58 interdictions de paraître sur la zone prononcées.
Maintenant, tout n'échoue pas à la police. C'est une problématique transversale qu'il ne sera pas possible de résoudre avec les seules forces de police.
La répression ne semble donc pas fonctionner ici. En 2019, le plan crack de la mairie de Paris proposait un accompagnement des toxicomanes pour les sortir de la rue, mais il n'a jamais vraiment été mis en place, selon Elisabeth Avril. C'est la présidente de l'association médico-sociale Gaïa.
Ça ne prend pas en compte la dimension essentielle de ces personnes qui sont des personnes malades. Ils sortent de chez le juge, ils retournent à Stalingrad. On a fait des propositions tout au long de ces années qui n'ont jamais été retenues. La mise en place de différents types d'accueil, tout ça a un coût, bien évidemment.
Et quoi qu'il en soit, chaque acteur l'admet, il faudra travailler sur plusieurs années car certains toxicomanes ne souhaitent pas être pris en charge. Le problème risquerait de se déplacer un peu plus loin. Une réunion de ce plan crack aura lieu aujourd'hui même en présence du maire de l'arrondissement et des associations. Et sur la zone de Stalingrad, les collectifs de riverains avertissent. La tension ne baisse pas, les rixes sont quotidiennes. L'effectif policier restera donc important dans les jours à venir.
Un reportage édifiant, signé Valentin Boisset. Merci Valentin. On le disait, le chef de l'État a érigé en priorité nationale la lutte contre le trafic de drogue, sujet encore brûlant après la mort du brigadier Éric Masson la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur parle d'un soldat mort dans la guerre contre la drogue. Gérald Darmanin a demandé dès 2020 aux forces de l'ordre de harceler les dealers et les points de vente. Au-delà de ces termes martiaux, on va voir avec vous, Thomas Proutot, bonjour.
Bonjour.
On va voir avec vous d'abord les chiffres, combien d'opérations menées depuis le début de l'année ?
Alors le ministère de l'Intérieur revendique 1742 opérations sur des points de deal depuis le 1er janvier, sur un total de près de 4000 désormais recensés en France. C'est la Seine-Saint-Denis qui arrive sur la première marche du podium. Un quart des opérations ont été lancées dans le 9-3, comme on dit, département très touché, on le sait, par le trafic. Total des saisies, 1,7 tonne de cannabis et 56 kilos de cocaïne, des volumes en réalité assez faibles.
Mais sur ces points de vente, les dealers sont partis ?
Réponse difficile. L'Intérieur ne tient pas le décompte des points de vente véritablement désertés. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à plusieurs endroits, oui, les files de clients ont disparu. Oui, les trafiquants et les guetteurs se sont envolés. C'est le cas au Long Sillon, par exemple, à Ivry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Cela a demandé de lourdes opérations de contrôle et une forte présence policière pendant des semaines. Le problème, c'est la suite, une fois que les forces de l'ordre sont reparties sur d'autres objectifs.
Et pourquoi les points de deal renaissent ?
Oui, c'est parfois le cas. Ou alors, ils se déplacent vers d'autres pas de porte, d'autres immeubles, accompagnés des nuisances pour les riverains. La politique du harcèlement prônée par Gérald Darmanin n'a donc pas de sens. Il s'agit seulement de faire du saut dessus, de faire du chiffre. Cela doit impérativement aller de pair avec le démantèlement des groupes criminels qui alimentent les dealers. C'est un haut gradé qui nous le dit. Et selon un syndicaliste policier de terrain, c'est loin d'être toujours le cas. Autre conséquence que le confinement a accéléré, c'est le basculement du marché de la drogue vers des plateformes numériques avec livraison à domicile qui rendent les enquêtes et les saisies beaucoup plus complexes.
La brigade RTL signée Thomas Proutot. Merci Thomas. 7h25. Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Votre pépite dans un instant,
oui,
vous allez nous surprendre.
J'espère, vous me direz.
A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Jérôme Florin.
Alors Anthony Martin, on est ravis de vous retrouver pour cette pépite musicale. Qu'est-ce que vous avez choisi pour nous ce matin ?
Alors en attendant de la retrouver en France pour des concerts, les premiers chez nous étant programmés en septembre 2022, écoutons la voix de Céline Dion. Ah. On va faire un tour dans son album en anglais New Day Has Come, sorti en 2002. Céline Dion préparait sa fameuse résidence au César Palace de Las Vegas. Il lui fallait des titres puissant, universel, si possible romantique. Et il y a un morceau qui venait de France qui correspondait parfaitement à tout ça. Chanson de l'année aux Victoires de la Musique en 2001, qui en plus avait fait ses preuves et ça a été un immense succès. La chanson en question, c'est ça.
Pour que l'amour, on saura se donner.
Alors ce qui est bien, c'est qu'on va l'avoir dans la tête toute la journée. Ah oui, l'envie d'aimer, l'envie d'aimer, finale de la comédie musicale Les Dix Commandements, composée par Pascal Obispo, une performance de l'interprète Daniel Lévy. Et ce morceau s'est donc envolé outre-Atlantique, puisque Céline Dion s'en est emparée et a demandé à ce qu'on l'adapte pour elle en anglais. Le texte a été un peu modifié, hein. Il peut être interprété comme une déclaration d'amour à son fils René Charles qui venait de naître. C'est notre pépite du jour, interprétée par Céline Dion. L'envie d'aimer devient la plus grande récompense, the greatest reward.
Wow.
You trusted me to grow. I gave my heart to show. There's nothing else I cherish more. I stand by you for sure.
À Céline Dion, c'est incroyable.
Oui, surtout que cette voix est une pépite, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Hein. The Greatest Reward, l'envie d'aimer par Céline Dion. Alors c'est très Las Vegas, hein. Il y a de l'émotion, un refrain qui clignote, tout ça est bien fait. C'est un morceau de l'album New Day Has Come.
Merci beaucoup Anthony, on se dit à demain.
À demain.
Et à tout moment, évidemment, podcast via l'appli RTL. 15h30, 18h chaque jour sur RTL, vos grosses têtes. Et vous saviez que Jean-Phi était éleveur de chats à une époque ?
Et vous les mettiez où, vos chats ?
Alors, la chatterie.
Il fallait que vous ayez un grand appartement. Comment il s'appelait ce copain d'abord ?
Fabrice.
On l'a pas connu celui-là.
C'est l'escroc qui m'a foutu sur la paille. J'avais un séchoir professionnel pour sécher
un
chat.
Un séchoir professionnel ?
Oui, parce que tu peux pas avoir assez de cheveux comme ça avec le chat.
Et après,
un séchoir.
Comme un casque ?
Ah oui, c'est ça, comme un casque pour les dames.
Dites-le, Isabelle, un séchoir à chat.
Non.
Vous êtes sadique, Laurent.
On aimerait bien que tu nous le dises quand même.
Mais c'est des chats qui peuvent
coûter cher. Mais c'est quoi une chatterie ?
Une chatterie, c'est un bâtiment qu'on construit à côté de la maison. Parce que
donc ils étaient tous ensemble, ils ne s'amaillaient pas ?
On séparait. Ils avaient plus ou moins des petits box. Hein, des...
Ça ne gueulait pas.
Oh, ils avaient chacun son salon.
Vous aviez les moyens pour avoir une chatterie à côté de chez
c'est
vous.
C'est pas moi, c'est Fabrice avec l'argent qu'il m'a emprunté.
Et c'était les grosses têtes sur RTL autour de Laurent Ruquier, Louis Baudin. On aura des pluies et des orages dans l'Est aujourd'hui.
Exactement. Bonjour Jérôme. Des averses qui vont se décaler par rapport à hier vers l'Est, parfois accompagnées d'orages. Alors, ces averses orageuses et plus fortes sont attendues entre la région Rhône-Alpes et la Méditerranée avec du vent fort, notamment sur ce littoral méditerranéen tout au long de la journée. Attention au cumul, hein, notamment autour de la vallée du Rhône. Des averses également très fréquentes dans le nord-est. Et puis dans toute la moitié ouest, on va retrouver des éclaircies, mais avec là aussi un risque de pluie. N'oubliez pas de partir avec le parapluie ce matin. Côté température, eh bien on a encore 21 degrés à Grenoble en ce moment, ou encore 18 degrés à Toulon. Ailleurs, on est repassé en dessous des 10 degrés. Et cet après-midi, 15 à 19 degrés dans la moitié nord. On revient à des valeurs de saison, voire un peu en dessous, 18 à 21 degrés dans le sud.
Merci Louis. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 10 mai. Bonjour Isabelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et je vous propose d'entendre d'abord le témoignage de Sylvie. Sylvie, son mari doit être jugé en janvier prochain pour l'assassinat d'une vieille dame de 92 ans dans un EHPAD de Tours. Cette dame est morte étouffée par une madeleine juste après la visite de cet homme qui a été immédiatement soupçonné car il lui a acheté sa maison en viager. Depuis, il est en détention provisoire. Une terrible erreur judiciaire selon sa femme.
Notre vie a basculé dans un véritable cauchemar depuis 2 ans. Comment peut-on tuer quelqu'un avec une madeleine? Le vrai problème, c'est le viager, ce boulet qui nous colle à la peau. Ça paraît suspect, ça paraît malsain. J'ai été entendue par la police. La première phrase qu'ils m'ont dit, vous connaissez le film de Le Viager? Alors je me suis dit, bah ça y est, le ton est donné. Nous y sommes. La justice est complètement en train de se tromper depuis le début.
Sylvie au micro RTL de Christian Panvert.
C'est l'information de la nuit. 2 suspects ont été interpellés hier après la mort du policier Éric Masson.
Il s'agit vraisemblablement du tireur et de son complice. Ils ont été arrêtés à 20 kilomètres d'Avignon. Des interpellations qui interviennent quelques heures après une cérémonie devant le commissariat d'Avignon. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage aux policiers tués mercredi dernier en intervention sur un point de deal. Parmi elles, Marc, un collègue d'Éric Masson.
Je viens rendre hommage pour la 1e fois. J'en ai fait déjà 3 la semaine dernière. On en refait encore un autre cette semaine. 2 autres la semaine prochaine. En fait, notre travail maintenant, au lieu de faire la guerre à la délinquance, ça va simplement consister à assister à des hommages en permanence. Donc, monsieur le garde des Sceaux, il ferait mieux, au lieu d'aller se promener dans les Hauts-de-France, faire la guerre à Marine Le Pen, il ferait pas mal de faire la guerre à la délinquance.
Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ?
La colère, beaucoup de colère.
Marc avec Samia Belbachir. L'actualité de ce lundi, c'est aussi la suite du procès de Norda Lelandais devant les assises de Savoie. Le verdict est attendu mercredi et aujourd'hui, la cour va se pencher sur les expertises psychologiques. L'ancien maître chien est jugé pour le meurtre du caporal Arthur Noyer il y a 4 ans. Il plaide l'homicide involontaire. Pour l'avocat de la famille Noyer, Bernard Boulou, ça ne tient pas.
C'est pas parce qu'on n'a pas un cadavre complet qu'on ait pu autopsier que les choses sont gagnées pour lui. Hein. L'intention, elle peut se déduire d'un certain nombre d'autres éléments que des éléments matériels. Parce qu'il est quand même très fort, il dissimule les éléments et après il vient vous dire « mais vous n'avez pas d'autopsie ». C'est quand même fort de café. Donc l'individu est très réfléchi, mais la cour, je pense, ne se laissera pas duper.
Un propos recueilli par Serge Puyouf. Bernard Tapie, de retour au tribunal ce lundi pour le procès en appel de l'arbitrage controversé qui lui a permis de récupérer 400 millions d'euros dans son litige avec le Crédit Lyonnais. Tapie est jugé pour escroquerie. En première instance, il a été relaxé. Les militaires n'ont pas dit leur dernier mot. La revue Valeurs Actuelles a publié hier soir une nouvelle tribune rédigée cette fois par des militaires d'active et ouverte aux signatures. Un texte qui appelle les politiques à agir pour la survie de notre pays. Pour l'heure, près de 150 000 personnes l'ont déjà signé. Un petit coup d'œil dans le rétro, c'était il y a 40 ans exactement.
Les Français ont choisi le changement que je leur proposais.
L'élection de François Mitterrand, premier président de gauche de la 5e République, c'était la victoire du PS, dirigée alors par son protégé Lionel Jospin.
Si jamais des Français voulaient manifester leur joie, c'est sur la place de la Bastille qu'ils peuvent le faire s'ils le souhaitent.
Lionel Jospin qui est l'invité d'Alba Ventura dans quelques minutes. Arrêtons-nous maintenant Isabelle sur le sort des livreurs à vélo, des livreurs en danger.
Le mardi dernier, un jeune coursier a été tué à Paris. Il a été percuté par un camion. Un rassemblement est prévu cet après-midi, place de la République, pour lui rendre hommage. Rassemblement à l'initiative du CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme, dont fait partie Jérôme Pimoux.
On voit bien, malheureusement, que les morts se rapprochent les unes des autres. Ce genre d'accident doit nous faire prendre conscience que les livreurs sont hyper exposés au danger. Dès qu'on a une livraison, on se dépêche de la faire pour la finir le plus vite possible, pour essayer d'en rattraper une. C'est ça qui pose problème, c'est que ça crée une pression sur les livreurs qui, malheureusement, des fois, se traduit par des accidents.
Un propos recueilli par Valentin Boissé pour RTL. Ça n'a sûrement dérangé personne, mais tout de même, c'est un événement. Ingenuity, l'hélicoptère de la NASA, a réussi son 5e vol sur Mars. Et pour la première fois, le bruit des pales a pu être enregistré. Cocorico, c'est grâce au micro du rover Perseverance, les micros de la Supercam, fabriqués à Toulouse, Patrick Tegero.
On entend d'abord le vent martien. Puis au bout de 20 secondes, Ingenuity, le petit drone décolle et commence à bourdonner.
Très honnêtement, on n'y croyait pas.
Baptiste Chide a tout juste 28 ans. Il travaille à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Ce micro, c'était le sujet de sa thèse d'étudiant.
Parce que l'atmosphère martienne, elle atténue tellement les sons qu'à la distance à laquelle était l'hélicoptère, 70 mètres, très honnêtement, on n'y croyait pas. Quand on l'a entendu, vraiment, ouais, c'était assez génial. Ouais. C'est une prouesse technologique incroyable hein, de se dire qu'on a écouté un hélicoptère sur Mars. On pourrait se dire, écoutez, un hélicoptère sur Terre, on l'entend tous les jours. Là, on le fait sur Mars, c'est quand même assez incroyable.
Baptiste ne cache pas sa joie, il y a de quoi être fier.
Alors, se dire qu'on entend du son à la surface d'une autre planète, déjà, ça n'avait jamais été fait, donc il y a de quoi être enthousiaste, parce que tout ce qu'on entend, c'est une découverte, c'est quelque chose de nouveau. On ajoute le 5e sens à l'exploration de Mars, ça n'avait jamais été fait. Ça ouvre une porte énorme sur tout ce qu'on va pouvoir apprendre.
Le micro de Baptiste sera donc très utile dans la quête de traces de vie ancienne sur Mars. C'est l'objectif de Persévérance.
Patrick Tégéraud. On termine avec le foot et le PSG dans une mauvaise passe. Les Parisiens éliminés en Ligue des Champions ont été tenus en échec par Rennes hier en championnat, un partout, ce qui les laisse à trois longueurs de Lille, toujours leader à deux journées de la fin. Monaco remonte sur le podium en s'imposant à Reims 1-0.
Merci Isabelle Choquet. On se retrouve à 8h40 pour la face cachée de la Une.
Et nous ferons connaissance avec l'habilleuse de la Reine d'Angleterre.
À tout à l'heure, 7h36. Bonjour François Langlais.
Bonjour Jérôme.
Langlais Co dans un instant, 40 ans après le 10 mai 80, les États-Unis sont-ils en train de se convertir au socialisme?
Eh oui, Joe Biden, le fils secret de François Mitterrand. Ah, ce sont les chiffres de l'emploi publiés vendredi dernier qui ont justement fait dire à certains que les États-Unis sont en train de devenir un pays socialiste européen. Alors on va regarder ça avec le calme, la décontraction et le sérieux qui sont les marques de cette matinale.
Et qui vous caractérisent. À tout de suite.
Suivez RTL Matin en direct vidéo sur rtl.fr.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Alors François Langlais, une polémique monte hein, aux États-Unis. Le pays serait frappé par la maladie française à cause des allocations chômage mises en place par Joe Biden.
Oui, tout est parti de chiffres publiés vendredi. 266 000 emplois seulement créés au mois d'avril en Amérique. Alors qu'on en attendait près d'un million. Et puis surtout alors que des millions d'entreprises se plaignent de ne pas parvenir à recruter. Il n'en fallait pas plus pour que l'opposition, les Républicains, les organisations patronales et puis aussi plusieurs États fédérés ne crient haro sur l'indemnité de chômage exceptionnelle qui vient d'être prolongée par le nouveau président. C'est 300 dollars par semaine, ça fait 1200 euros par mois, qui s'ajoutent au chèque d'un peu plus de 1000 euros reçus par chaque ménage. Le Wall Street Journal, vous savez que c'est le journal conservateur économique, résumait les critiques dans un édito vengeur en disant, vous savez quoi, quand on paye les gens à ne pas travailler, eh bien c'est exactement ce qu'ils font.
Ça veut dire que les Américains ne se donneraient plus la peine de chercher du travail?
En fait, c'est ce que disent les critiques, qui estiment que Biden est en train de transformer les États-Unis en pays socialiste européen, en un mot, en la France. Mmh. Hein, avec son chômage persistant, quelle que soit la météo économique. Le taux de chômage américain a d'ailleurs remonté le mois dernier à 6,1%. Du coup, en Caroline du Nord, en Floride, on a réinstauré les contrôles de recherche d'emploi pour les bénéficiaires de ce chômage exceptionnel, contrôle qui avait été suspendu pendant le confinement. Dans le Montana, on a carrément interrompu le versement de l'aide de 300 dollars. Et puis, on a mis en place un bonus de 1200 dollars pour tous ceux qui reprennent le travail.
Alors, ces critiques sont justifiées?
Écoutez, ça serait aller un peu vite en besogne que de les suivre. Tout d'abord, c'est vrai que les chiffres mensuels, ils sont volatiles. Un seul indicateur, c'est pas toujours significatif, à la hausse comme à la baisse d'ailleurs. Comme toujours, c'est la tendance qui compte. On en saura donc plus le mois prochain. Ensuite, il est probable qu'en effet, de nombreux parents, les femmes en particulier, ne soient pas revenus sur le marché du travail malgré les offres, non pas parce qu'ils touchent une allocation, mais parce que les écoles n'ont pas toutes ouvertes et ils ou elles sont collés à la maison pour garder leur progéniture.
Ça voudrait dire que l'emploi va reprendre lorsque la crise Covid sera derrière nous.
Écoutez, on peut l'espérer, mais cette affaire révèle un problème plus vaste qui touche la plupart des pays. La très forte reprise qui est à l'œuvre, soutenue par les massifs programmes de dépenses publiques, bute sur la pénurie de ressources. Des ressources physiques, avec pénurie de matières premières, les métaux par exemple, les composants semi-conducteurs, on en a souvent parlé à ce micro. Mais aussi, et c'est nouveau, les pénuries de ressources humaines. Il y a 8 millions d'Américains en moins qui travaillent par rapport à février 2020. Alors que la croissance est repartie à fond. Du coup, les employeurs proposent des salaires à la hausse. Le salaire horaire moyen américain a pris 8,4% le mois dernier par rapport à l'année précédente. C'est énorme. Mais il y a aussi des pointes à plus 16,8% dans le commerce sur un an. Et plus 19,2% dans le tourisme, dans l'hôtellerie. Pas si facile que ça de gérer la reprise.
Langlais Co, merci François Langlais. À demain, 7h42. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Votre invité dans un instant.
L'ancien Premier ministre Lionel Jospin, il y a 40 ans, jour pour jour, le 10 mai 81, un président de gauche s'installait à l'Élysée pour la première fois sous la 5e République. Et Lionel Jospin était aux premières loges.
Merci, à tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
Jérôme Florin.
7h43 sur RTL. Alba Ventura, vous recevez l'ancien Premier ministre Lionel Jospin.
Bonjour Lionel Jospin.
Bonjour.
Et bienvenue sur RTL. Vous êtes l'un des grands témoins du 10 mai 81, date qui marque l'alternance 23 ans après le début de la 5e République. Alors en général, lors d'événements de ce type, on se souvient de ce qu'on faisait, où on était. Et d'abord, je voulais savoir, vous, quand vous débutez cette journée du 10 mai 81, vous vous souvenez du sentiment qui vous anime ?
Oui, bien sûr. Je pense qu'il est mixte. D'un côté, les résultats du premier tour laissent place à un optimisme raisonné. Et de l'autre, nous avons le souvenir des défaites aux élections nationales en 73, en 74, la présidentielle déjà Mitterrand, en 78. Et il y a comme une, non pas une superstition, mais l'idée qu'il pourrait y avoir une fatalité. Y échapperons-nous.
Mais à quel moment vous pressentez que la victoire est à portée de main ? C'est tard dans la journée ? C'est en arrivant au Parti Socialiste le soir ? C'est quand ?
Non, il n'y a pas véritablement de raison que l'humeur est changée tant qu'on n'a pas des indices. Et donc, en réalité, cette incertitude sera levée quand les instituts de sondage nous appelleront vers 18h30 à peu près, au siège du Parti Socialiste, où je suis avec un certain nombre de responsables, pour nous dire que sur la base des bureaux de test, ils pensent que la victoire de François Mitterrand devient presque certaine.
Alors ce soir-là, François Mitterrand n'est pas là, il est à Château-Chinon. Vous, vous êtes quelques-uns dans un bureau proche de celui de François Mitterrand. Qu'est-ce que vous vous racontez ? Et d'abord, est-ce que vous vous pincez pour y croire ?
Non, on ne se pince pas. Pourquoi s'infliger une douleur quand il y a du bonheur ? Mais c'est certainement un moment d'exultation. En même temps, nous le vivons dans un cercle restreint. J'appelle à ce moment-là François Mitterrand, justement à Château-Chinon, qui accueille cette nouvelle que peut-être il avait par d'autres canaux avec un grand calme. Et nous nous posons la question de garder cela par-devers nous. Bientôt, l'idée se répand au siège du PS, où il y a beaucoup de militants, de permanents qui sont rassemblés. Et puis des gens commencent à arriver devant le siège de la rue de Solferino. Alors à un moment, nous ne résistons pas et j'ouvre une fenêtre avec un ou deux autres et nous disons, nous pensons que nous avons gagné.
Ah, nous pensons. Et je vous dis ça parce que François...
C'est avant 20h.
François donc. Mitterrand lui-même a du mal à y croire quand il vous dit quelle histoire, je crois que vous êtes au téléphone avec lui. Et je crois qu'il croise aussi à Château-Chinon Hubert Védrine en lui disant, vous vous rendez compte de ce qui nous arrive ?
Oui, mais il y croit tout à fait néanmoins.
Il y croit tout à fait ?
Oui.
Vous savez à ce moment-là que vous allez être le patron du Parti Socialiste ? Il vous l'avait confié.
Je le suis déjà.
Vous l'êtes déjà ? Ben oui, vous l'êtes déjà.
Car au mois de novembre 1980, François Mitterrand m'a fait venir chez lui, rue de Bièvre. Il partait
confié.
D'ailleurs pour une réunion publique. Et il m'avait dit, voilà, si nous l'emportons, je vous propose de me succéder à la tête du PS. Ah. Vous ne serez pas au gouvernement. Mais vous serez, si vous êtes le premier secrétaire du Parti Socialiste à ce moment-là, vous serez associé à tout.
Et vous avez été associé à tout.
Et j'ai été associé à tout. François Mitterrand ne voulait pas qu'il y ait confusion entre l'État et les partis politiques de sa majorité, y compris le parti le plus important, qui était le Parti Socialiste, et qui va avoir la majorité en siège à l'Assemblée nationale. Il voulait que les choses soient distinctes. Il ne voulait pas la confusion, qui, par exemple, règne aujourd'hui. Et donc, mais, par contre, il ne voulait pas être isolé dans les institutions. Je parle du premier septennat, du début. Le second septennat sera sans doute différent à cet égard. Et il savait de toute façon que le Parti Socialiste ne pourrait pas fonctionner comme un parti godillot à la RPR, enfin, pas encore le RPR, à l'UNR, puis à l'UDR. Il en avait été lui-même l'animateur pendant 10 ans, et il ne voyait pas pourquoi il changerait de nature. Et donc, il savait que c'était en nous associant pleinement que nous pourrions être librement solidaires des décisions prises par le pouvoir auxquelles nous aurions contribué sans mélange de genre.
Revenons sur ce 10 mai. Vous le vivez comme un bouleversement. La gauche sort enfin de l'ombre. Je vous dis ça parce que Serge Julie, le journaliste ancien patron de Libération, disait jusque-là la France sentait le renfermer. C'est ce que vous sentiez, ressentiez vous aussi ?
Le renfermer est peut-être un mot sévère. Disons que la France était très centralisée à l'époque. Les successeurs du gaullisme avaient maintenu en état toute une série de systèmes de pesée sur l'information ou les médias, de formes de justice exceptionnelles, dérogeant au droit commun. qui faisait effectivement comme un étau. 68 avait été la puissante manifestation de la jeunesse, mais pas seulement aussi de la jeunesse, d'une partie des milieux ouvriers, contre cette atmosphère. 68 a été inabouti. Peut-être parce qu'il manquait justement des forces politiques. Et ça nous amène à ce qui a conduit au 10 mai, parce qu'il est venu de loin, si vous voulez, ce 10 mai. Il est venu de la mise en ballotage de De Gaulle en 65, il est venu de l'union de la gauche, il est venu de la construction d'une grande force socialiste. Et donc, oui, je pense que la Bastille en a témoigné par l'atmosphère qui s'y déroulait, même sous la pluie.
En liesse,
il y avait l'idée que... il y avait un changement à cet égard, qu'on allait respirer plus large, et à certains égards, ça a été vrai.
Mais la gauche faisait peur aussi. Alors, je vous passe les chars russes qui allaient déferler sur la capitale ou les socialistes qui mangeaient les enfants, parce qu'on a quand même lu des choses comme ça. Mais il y avait un bouleversement, un basculement vers l'inconnu. Vous vous êtes demandé, vous, si la gauche était à la hauteur, si la gauche était prête à gouverner. Vous vous l'êtes posé, cette question, à ce moment-là?
Ce qui est sûr, c'est que François Mitterrand, dans ce travail de construction d'une force sociale-démocrate, d'une force du socialisme démocratique, avait progressivement rassemblé autour de lui des hommes et des femmes. À cette époque, peut-être plus d'hommes que de femmes, il faut bien dire, même si elles poussaient à la porte, qui alliaient à la fois la culture militante, des aptitudes gestionnaires dont il faisait la démonstration dans les collectivités locales que nous étions en train de conquérir, et pour un certain nombre d'entre eux, dont j'étais d'ailleurs peut-être aussi, des hommes qui connaissaient les rouages de l'État, qui l'avaient pratiqué comme serviteur de l'État.
Ça n'a pas empêché le tournant de la rigueur, Lionel Jospin.
Le tournant de la rigueur n'est pas lié à une méconnaissance des mécanismes de l'État ou d'une incapacité à gouverner. Le tournant de la rigueur est lié au fait que nous nous sommes trouvés en 1981 à contre-courant d'un cycle qui commençait, qui a été le cycle du libéralisme et de la dérégulation.
Avec Thatcher et Reagan
et leurs idées diffusaient dans l'Union européenne. Et donc, nous avions hérité aussi d'un pays qui cumulait chômage et inflation. Donc il était difficile de trouver le chemin correct de politique économique. Au bout de 3 ans, il a fallu effectivement tourner. Et moi, mon sentiment, c'est à la fois que s'il n'y avait pas eu cet élan initial, avec peut-être un excès de demande, si vous voulez, nous n'aurions pas gardé au fond cette confiance qui s'est remanifestée de la part du peuple français en 88, puisqu'ils ont réélu les Français, François Mitterrand.
À chaque fois, il y a eu des cohabitations quand même.
Oui, c'est vrai, oui, mais celle-là a été courte. Mmh. Donc, ça aussi, c'est la confrontation peut-être entre deux hommes, le jugement qu'ils ont porté sur la capacité de l'un et de l'autre, celui qui était président et celui qui aspirait à l'aide, Jacques Chirac, à présider le pays. Mais il y a eu aussi le fait que, sans cet élan, nous n'aurions pas gardé la confiance, sans le tournant de la rigueur, nous n'aurions pas donné les gages de réalisme qui aurait amené une partie des Français à continuer à nous suivre. Donc les deux choses étaient nécessaires à l'époque. Oui, non, je vous en prie.
De quel type étaient vos relations avec François Mitterrand? C'était de la confiance? C'était filial? Alain Duhamel a écrit que vous étiez son disciple favori.
Je préfère être son disciple que son favori, de toute façon, et je pense que je ne l'étais pas. Non, oui, notre lien était politique. En même temps, à partir du moment où je suis devenu le numéro 2 du PS et le secrétaire international en 1979, 2 ans avant la victoire, j'ai beaucoup accompagné François Mitterrand dans ses voyages internationaux. Et donc, quand on voyage longuement, notamment pour aller en Amérique latine ou en Chine, évidemment, on se parle, si vous voulez. Donc, je crois qu'il avait confiance en moi. Et c'était une relation politique, affectueuse, teintée d'ironie chez lui, de respect, mais qui n'était pas de la courtisanerie chez moi. Et donc, oui, ça fonctionnait bien.
C'est difficile de dire en ce 10 mai, joyeux anniversaire à la gauche.
Je ne vois pas de raison pour lesquelles, si nous sommes dans un moment moins favorable pour la gauche, à l'évidence, c'est aussi c'était dans les titres du journaux, accompagnant les Dumais ce matin, je ne vois pas pourquoi nous ne devrions pas nous réjouir d'événements qui ont été importants pour l'histoire française, vous allez rappeler, l'alternance, qui ont provoqué une grande joie dans une grande partie de la population et de la jeunesse, et dont nous avons été fiers. Donc, il y a effectivement non seulement un contraste entre ces souvenirs de la fête et de la victoire et l'état actuel de la gauche, dont il ne faut pas nier la faiblesse, mais je dis aussi un paradoxe. Parce que finalement, un certain nombre de ces idées que nous avons portées à contre-courant de l'évolution économique du monde au début des années 80, on les voit ressurgir. Les inégalités ont tellement fleuri, la menace sur la planète est tellement prégnante qu'on se rend compte que pas dans la dérégulation et dans le recours au libéralisme que l'on peut toujours trouver des leçons.
On entend sur les plateaux de télé ou de radio dire le PS est mort, la gauche plurielle que vous avez mis en avant, c'est fini aujourd'hui, il n'y a pas de leader charismatique au PS. Vous ne pouvez pas être indifférent à l'état de la gauche et du Parti Socialiste aujourd'hui.
Mais je n'y suis évidemment nullement indifférent, d'autant que j'y suis resté, même si je n'y occupe pas évidemment
vous avez toujours
de
votre
fonction. Cas. Oui, absolument. Je paye ma cotisation. Donc. Mais cet état de la gauche... qu'il tire des leçons de ce qu'a fait François Mitterrand, construire une force, unir des éléments de la gauche, ce que j'ai fait moi-même avec la majorité plurielle que vous venez de citer, et c'était déjà un rebond à l'époque pour un parti socialiste qui s'était affaibli. Et donc qu'il tire des leçons de cela et qu'il le fasse. Moi, je les regarde avec sympathie, mais ce n'est pas en cultivant les égos qu'ils avanceront. Donc ils ont plus de mois pour essayer de le faire. Et s'ils ne peuvent pas le faire pour 2002, eh bien je pense que ça se refera après, parce que ces idées restent actuelles.
Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre Lionel Jospin.
Je vous en prie.
Merci, Monsieur le Premier ministre, qui a donc toujours sa carte au Parti Socialiste et qui appelle évidemment les dirigeants actuels à tirer les leçons de ce qu'a fait François Mitterrand. Merci, on vous souhaite une très bonne journée. Il est 7h55 sur RTL.
En un clic, réécoutez vos programmes préférés 24h sur 24.
Rendez-vous sur RTL.fr. RTL Matin,
le surf de l'info,
Cyprien Sini.
7h56 sur RTL, bonjour Cyprien.
Bonjour à tous.
Vous surfez avec la guerre du Nord.
Ah bah moi qui avais peur de m'ennuyer avec les régionales et départementales, bah finalement... c'est grand spectacle. Grand spectacle sur grand spectacle, c'est la fête du cinéma. On a eu le psychodrame à l'eau de rose en PACA la semaine dernière et cette semaine, place à un nouveau genre de film. La guerre du Nord, jeu de massacre dans les Hauts-de-France avec l'invité surprise, Éric Dupond-Moretti.
Bonjour, vous demandez peut-être ce que je fais là.
Eh ben c'est vrai qu'au début on s'est un peu demandé, mais assez vite on a compris la stratégie.
Au Nord, il envoie
Éric Dupond-Moretti
écraser tous ceux qui oseraient s'opposer à lui.
Oui, c'est un peu l'idée de départ, sauf qu'il y a le RN qui y est depuis déjà un moment et qui ratisse des voix à coups de...
Nous sommes le seul espoir du Nord.
Alors, autant vous dire que ce week-end, Éric Dupond-Moretti, bah, il a tout donné. Hein. Histoire d'installer l'ambiance, d'abord, avec le coup du faux lapsus.
En revanche, tout ce que porte Marine Le Pen, je l'exècre.
Po, trash talking, Marine Le Pen. Il est là, le garde des Sceaux, il attaque frontal, il est présent. Éric Dupond-Moretti, qui est venu avec ses punchlines, et Marine Le Pen, qui l'attend au tournant. Résultat, un dialogue à distance, très cours de récré de CM2, en fait. Hein.
Moi, je ne veux pas chasser sur les terres du Front National. Je veux chasser le Front National de ces terres.
Et toc.
Vous savez, j'ai vu beaucoup de forts en gueule venir ici tenter de défier le Rassemblement National. Et ils sont tous assez rapidement repartis, plutôt humiliés par l'expérience.
Et toc, et toc, et toc.
Ah, ben ça promet. Hein. Tiens, d'ailleurs, on sent qu'il est encore un peu mauvais, Jean-Luc Mélenchon, avec son expérience nordiste. Quand on lui demande ce qu'il pense des chances d'Éric Dupond-Moretti, il y a quand même un peu d'amertume. Hein.
Il va se faire plier parce qu'il représente à peu près tout ce que les gens détestent.
Oh là là, on est parti sur des bonnes bases là. Hein. Et au milieu de ce combat de poids lourd où visiblement on n'a pas l'intention de retenir ses coups, on retrouve la candidate de l'Union de la Gauche et des Verts, Karima Delli, qui n'a pas tout compris au film visiblement.
Vous savez, cette élection, c'est pas un match de boxe ou un prétoire.
Ouais, on aimerait bien pourtant, mais en fait si, hein, et le match il a déjà commencé d'ailleurs. En tout cas, ce qui est certain avec la guerre du Nord, c'est que...
Nous tous, ici présents,
sommes des gens qui ne nous aimons guère. Vous en avez eu la démonstration sous les yeux.
Effectivement, et pour rester dans les clous du CSA, nos amis du CSA, je rappelle qu'à droite, il y a aussi Xavier Bertrand, hein, qui pour ajouter un peu de dramaturgie a dit...
Les choses sont très claires. Si je perds, ça sera terminé de ma vie politique.
Oui, alors en fait, je ne sais pas si ça rajoute beaucoup de dramaturgie, ça, mais en tout cas, on sent qu'avec tout ça, c'est surtout la présidentielle qui est bien lancée.
Merci beaucoup. Cyprien Sini, vous revenez à 19h15 chez Thomas Soto ce soir sur RTL. Louis Baudin, agité, instable.
Exactement.
Ainsi la journée.
Il pleut dans le nord, tiens, je sais pas si ça rend des choses, mais voilà, ça fait dans le nord que l'on trouvera dans la plupart des régions, mais surtout dans la moitié est, effectivement. C'est là où ces averses sont parfois accompagnées d'orages, sont les plus intenses autour de la vallée du Rhône, région Rhône-Alpes. Ça donnera un petit peu de neige à haute altitude sur les Alpes. Et puis attention au vent également, qui soufflera sur le littoral méditerranéen, également concerné par cette évolution orageuse. Je vois beaucoup d'orages d'ailleurs autour du golfe du Lion en ce moment. Ça va être comme ça toute la journée. Dans la moitié ouest, on va retrouver quelques éclaircies. Mais avec là aussi un risque d'averse sera quand même plus espacé, elles seront moins importantes, mais il y en aura aussi. Puis les températures, eh bien ça va repartir à la baisse, hein, une chute par rapport à hier. On perdra souvent 8 à 10 degrés. Évidemment, hier on a atteint les 30 degrés par endroit. 15 à 19 degrés seulement cet après-midi dans la moitié nord. Nous revoilà des valeurs de saison, voire un peu en dessous. 18 à 21 degrés dans le sud.
Merci beaucoup Louis. Il est 8h sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Et le journal vous est présenté par Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une, deux suspects arrêtés après la mort du policier d'Avignon.
Interpellé hier soir au péage alors qu'il quittait la ville, le tireur présumé fait partie du coup de filet. Des jeans made in France et bon marché, le groupe Mulier tente l'équation qu'on finissait par croire impossible. On verra qu'il y aura pour ça beaucoup de machines dans leur nouvelle usine. Bernard Tapie est toujours considérablement affaibli, mais il devrait être là pour la reprise de son procès en appel cet après-midi dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Et puis si certains de vos collègues de travail en masque bleu viennent hanter vos nuits, si vous rêvez d'attestations oubliées ou de fin du monde, c'est normal. La Covid a modifié nos vies, elle perturbe aussi nos rêves.
Sans blague.
RTL Matin.
La mort de ce brigadier Éric Masson, tué froidement pour quelques grammes de drogue la semaine dernière à Avignon, a choqué et ému tout le pays. 80 policiers travaillaient depuis jour et nuit pour traquer le tireur en fuite. Le résultat est là, coup de filet hier soir à la sortie d'Avignon. Bonjour Thomas Proutot.
Bonjour.
Deux hommes ont été interpellés à un péage. Parmi eux, les enquêteurs pensent avoir sous la main le tireur présumé.
Absolument. Le jeune homme, désormais en garde à vue, a été identifié dès ce week-end par la police judiciaire, possiblement grâce à un élément matériel qui le relierait à l'arme du crime, selon nos informations. Mais il y a aussi la surveillance serrée de ce suspect qui a été mise en place dès son identification. Les enquêteurs pourraient donc disposer notamment d'écoutes incriminantes. En tout cas, ils ont été en mesure de détecter la tentative de fuite vers l'Espagne, ce qui a déclenché l'interpellation. Et puis il y a les centaines d'heures de vidéosurveillance de la ville d'Avignon qui ont été visionnées. Il n'y avait pas de caméra sur le lieu même du crime, mais d'autres, plus éloignés, ont pu enregistrer la fuite après les tirs. C'est l'ensemble de ces éléments qui rendent les enquêteurs optimistes. Optimistes à tel point que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les a félicités dès hier soir, sans attendre de confirmation judiciaire. L'autre homme interpellé reste un complice présumé. On ne connaît pas encore son niveau d'implication. Des perquisitions sont en cours ce matin afin de trouver d'autres preuves et de bétonner le dossier.
Merci beaucoup Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Je vous parlais de l'émotion et de la colère des forces de l'ordre après ce meurtre. Eh bien, les syndicats de police sont reçus ce soir à Matignon. Et puis, il y aura l'hommage national demain à Avignon, présidé par le Premier ministre Jean Castex.
Bernard Tapie attendu à nouveau cet après-midi au tribunal de Paris.
Reprise du procès en appel dans l'affaire dite de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. Bernard Tapie soupçonné d'avoir truqué les négociations pour toucher in fine 400 millions d'euros parce qu'il s'estimait floué par la banque lors de la vente d'Adidas dans les années 1990. En octobre dernier, le procès avait dû être interrompu. Bernard Tapie souffrait trop de son cancer. Il sera là normalement tout à l'heure à 13h30 à l'ouverture, même s'il est toujours affaibli, Alice Moreno.
Oui, même très affaibli par son cancer, il a bien l'intention d'assister au procès. Bernard Tapie a intensifié ses traitements la semaine dernière et pourra ainsi les interrompre le temps des audiences. Ce qu'il s'inflige, c'est même affolant, s'inquiète un de ses très proches. Lors des débats au premier procès, il n'a pas hésité à s'adresser directement au procureur qui réclamait 5 ans de prison contre lui. « Monsieur le procureur, vous êtes plus généreux et optimiste que mes médecins », lui avait-il lancé. Sa voix portait encore à l'époque. Bernard Tapie veut venir à bout en personne de ses 25 ans de combat judiciaire dans l'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais. Le ministère public a réclamé ce procès en appel, estime que l'arbitrage était truqué. L'homme d'affaires s'est toujours défendu d'avoir volé le contribuable. Il veut le dire, encore une fois, s'adresser lui-même au juge, leur prouver que la relaxe décidée en première instance est la bonne réponse.
Merci Alice Moreno. Poursuite également du procès de Nordal Lelandais à Chambéry, accusé du meurtre d'Arthur Noyer, place aujourd'hui aux expertises psychiatriques. Le verdict est attendu normalement mercredi.
Question économique à présent à 8h04 sur RTL. Qui a dit qu'on ne pouvait pas fabriquer des vêtements bon marché en France ?
Il faut dire qu'à cause des écarts de salaire, essentiellement les étiquettes Made in France sont devenues très rares dans le textile. Le groupe Mulier, avec ses enseignes Auchan, Pimki ou encore Jules, va tenter une relocalisation dans son fief du Nord pour fabriquer en l'occurrence des jeans. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Alors des jeans bon marché fabriqués en France, quel est le secret du groupe Mulier ?
Alors c'est vrai que c'est une relocalisation très symbolique pour ce groupe nordiste dans une région qui a été la capitale du textile pendant des décennies. On connaît des marques de jeans Made in France situées sur le haut de gamme, mais là on parle de pantalons bon marché vendus entre 40 et 60 euros dans les différentes enseignes du groupe. L'objectif est de sortir en pleine puissance, c'est-à-dire en 2024, 410 000 pièces par an. Pour arriver à être compétitif face à la concurrence asiatique, il y a deux éléments clés. Peu de main d'œuvre parce qu'elle est beaucoup plus chère, bien sûr, que dans les pays émergents. Le projet va créer 60 postes dans un premier temps et 105 à terme. L'usine située en banlieue lilloise à Neuville-en-Ferrin sera donc largement automatisée. Puis l'autre clé pour réussir à être rentable, c'est ce qu'on appelle le juste à temps, une production à la minute en fonction de la demande pour éviter d'avoir du stock en trop et de devoir faire des ristournes pour écouler la marchandise. L'usine sera donc ultra moderne, elle recyclera les eaux de pluie, proposera de la toile en tissu recyclé et réduira le bilan carbone de la production puisque les jeans seront fabriqués au plus près de leur lieu de vente sans venir d'Asie par porte-conteneur.
Merci beaucoup Martial Liu, chef du service économique et social d'RTL. En bref, la situation sanitaire, on est passé sous la barre des 5000 patients soignés dans les services de réanimation. On était à 6000 il y a encore une dizaine de jours. Et puis je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, les plus de 50 ans peuvent se faire vacciner sans aucune restriction.
Une pause et dans un instant, difficile de se rendre compte avec la journée pluvieuse d'aujourd'hui, mais la sécheresse menace en France et la situation inquiète tout particulièrement dans le sud-ouest. A tout de suite, il est 8h07.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Les agriculteurs très durement touchés par le gel font maintenant face au risque de sécheresse.
Oui, ne pas se fier, vous le disiez, à la météo du jour. Les sols français restent très secs. Il n'a pas beaucoup plu cet hiver. La préfecture du Lot limite même depuis ce week-end la consommation d'eau. En Bourriane, par exemple, on est pour vous situer entre Cahors et Brive. Reportage de Patrick Tégéraud.
Le Bléou, le ruisseau qui traverse le Vigan, fait moins d'un mètre de large et quelques centimètres seulement de profondeur. Yves Thoraven est agriculteur à la retraite. Il est né dans sa ferme de Peyrès.
Jamais. Jamais il y a eu des restrictions d'eau aussitôt. On a eu des sécheresses, comme 76, 4 mois sans eau, mais il n'avait plus dans l'hiver. Alors que là...
Bref, il n'y a aucune réserve pour l'été. L'hiver a été beaucoup trop sec, ainsi que le printemps. Patrick est lui aussi un enfant du pays.
Il n'y a peut-être pas 30 ou 40 ans de ça, les prés étaient inondés, et au mois de mars, et au mois de novembre. Ils ne le sont plus aujourd'hui, plus jamais. Quoi. Ah, moi, je trouve que c'est très inquiétant. Oui.
Surtout pour les années à venir.
Guillaume vient de s'installer dans le village.
Je les comprends, ces restrictions.
Vous allez faire attention vous-même ?
Ah ben oui.
L'arrosage est interdit, le lavage des voitures également.
Bon, c'est normal, elles peuvent attendre. Regardez la mienne, elle n'est pas impeccable.
Bon, elle va rester comme ça.
Oui, oui, sans problème.
Yves, l'agriculteur, se souvient que tout a basculé en 2003. Avant, quand il arrosait son maïs, sa retenue d'eau collinaire retrouvait son niveau en 8 heures. Désormais, il lui faut 8 jours.
Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Louis Baudin, vous êtes resté avec nous, merci. Donc au-delà de cette situation dans le Lot, la situation inquiète aussi dans le Nord, dans l'Est, où là encore les sols restent secs.
Exactement, puis il faut surtout distinguer évidemment la sécheresse de surface qui sévit actuellement sur la France, de l'état des nappes phréatiques, sont plutôt à des bons niveaux en ce moment, à la sortie de l'hiver, sauf dans le Nord-Est, vous le disiez, où là effectivement on a encore un problème avec les nappes phréatiques, et donc cette sécheresse de surface qu'il va falloir surveiller au cours de ces prochaines semaines, en distinguant bien les deux. Puis surtout, ce qui se passe aujourd'hui, hein, cette pluie quotidienne n'est pas forcément suffisante pour endiguer cette sécheresse de surface.
Ouais, effectivement, cette pluie, merci Louis Baudin. Les départements, on le dit, hein, de la Loire, de la Haute-Loire, du Rhône, de l'Ardèche, de l'Ain sont placés en vigilance orange. Il pourrait tomber d'ici demain l'équivalent d'un mois de précipitations.
On parlait de jeans français tout à l'heure. La SNCF, elle, s'exporte et se lance en Espagne.
Oui, avec ses TGV à Bakou, Ouigo, la compagnie va proposer 5 allers-retours par jour Madrid-Barcelone. Ça commence aujourd'hui. Et comme en France, avec ses rames à double étage et ses sièges resserrés, la SNCF mise tout sur les tarifs très bas, Diane Cambon.
Les billets sont accessibles à partir de 9 euros pour un prix d'appel moyen autour de 25 euros. On est donc très loin des 70 euros en moyenne proposés par la compagnie espagnole Renfe. Ouigo devient ainsi le premier grand concurrent sur le sol espagnol avec ses 14 TGV low cost à deux étages et son wagon-bar. La compagnie française a embauché près de 1300 personnes avec 95% d'emplois fixes et a investi plus de 600 millions d'euros pour s'implanter en Espagne, pays qui a le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse d'Europe. De son côté, la compagnie espagnole, qui a pris du retard avec la pandémie, compte bien contre-attaquer en lançant sa compagnie low-cost, Avlo, d'ici la fin juin et envisage de s'installer sur le marché ferroviaire français.
Merci Diane Cambon, correspondante RTL en Espagne. En Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson valide la deuxième étape du déconfinement. Visiblement, la réouverture des terrasses, des pubs s'est bien passée. Lundi prochain, il rouvre en intérieur et les Britanniques vont avoir le droit à nouveau de se rassembler chez eux, au-delà du cercle familial, à 6 maximum.
Et à propos de l'épidémie de Covid, Olivier, elle ne perturbe pas que nos journées.
Non, le virus s'invite aussi la nuit chez nous. Le coronavirus, on en rêve aussi beaucoup. Rêve ou cauchemar d'ailleurs plutôt, Virginie Garin.
Oui, Perrine Ruby est spécialiste des rêves à l'INSERM. Elle a étudié 7000 témoignages depuis le premier confinement et elle est catégorique. Le Covid a changé nos rêves. L'angoisse, la peur ont d'abord augmenté le nombre de nos cauchemars.
Il y a eu un bouleversement des thèmes typiques des cauchemars, des catastrophes naturelles beaucoup, des fins du monde, des attaques d'extraterrestres, de vampires.
La privation de liberté a aussi beaucoup alimenté les rêves.
Les attestations, les contrôles d'attestation, la peur que son attestation ne soit pas remplie correctement, la peur de la police.
Et puis dans les rêves, c'est peut-être l'effet du télétravail, des gens se mettent à faire intrusion dans la vie privée.
Il y a les collègues qui sont à la maison. Vous ne pouvez plus empêcher les gens de l'extérieur de rentrer chez vous. Il n'y a plus de limite et ça vient jusque chez vous.
Dans beaucoup de rêves apparaissent aussi des scènes qu'on ne pouvait plus vivre.
Sont apparues des foules, des regroupements, des fêtes, des embrassades, une augmentation des rêves érotiques assez impressionnante. En tout cas, les rêves ont montré que l'impact émotionnel était énorme.
D'autres études internationales ont fait le même constat. Dans les rêves apparaissent parfois des personnages masqués ou protégés par des plexiglas.
Le Covid favorise les rêves érotiques.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On l'a demandé au docteur Simès de faire un éclairage là-dessus. On termine avec le foot. Olivier Lille prend le large.
Oui, Lillois, les Lillois qui ont 3 points d'avance désormais sur le PSG qui n'a fait que match nul hier soir, un partout, c'était face à Rennes.
Merci Olivier Bois, vous revenez à 9h pour un point sur l'actualité. 8h13.
Jérôme Florin.
RTL Matin, 7h-9h30.
Les experts de l'Agence européenne du médicament sont attendus en Russie aujourd'hui. Ils doivent inspecter les usines de fabrication du vaccin Sputnik V. Bonjour Émilie Bojard.
Bonjour.
Alors, cette visite, Émilie, pourrait à terme déboucher sur une autorisation du vaccin russe en Europe. Qu'est-ce qu'on sait de ce vaccin ?
Eh bien que c'est le meilleur vaccin du monde, selon Vladimir Poutine. Bon alors, le président russe n'est sûrement pas très objectif. Selon les données des scientifiques, le vaccin Sputnik V est un vaccin à vecteur viral, comme celui par exemple d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson. Il s'injecte en 2 doses et les Russes annoncent un taux d'efficacité de 92%, un taux qui a été validé très récemment par la communauté scientifique, même si de nombreuses réticences existent toujours autour de ce vaccin, notamment parce qu'il a été autorisé en Russie avant même la fin des essais cliniques.
Ce qui n'a pas empêché les commandes de ce vaccin.
Oui, aujourd'hui, une 60aine de pays utilisent ou vont utiliser le Sputnik V. Il y a par exemple l'Inde, le Mexique, l'Iran ou encore la Serbie. Mais il est difficile de savoir qui a vraiment vacciné avec, car il y a beaucoup de précommandes. 76 millions de doses pour le Brésil, par exemple, mais peu de campagnes de vaccination. En Europe, les avis sont divisés. L'Autriche et l'Allemagne y réfléchissent, mais attendent le feu vert de l'Agence européenne du médicament. Les Hongrois, eux, n'ont pas voulu attendre. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'ils vaccinent avec le Sputnik V et ils assurent que les résultats sont très bons.
Et si l'Europe donne son feu vert, Émilie, la Russie sera-t-elle capable de livrer les doses demandées ?
Alors c'est là tout le problème. Le laboratoire russe qui a mis au point le vaccin n'est pas un site de production. 6 usines sont dédiées à la fabrication du vaccin, mais cela suffit tout juste à produire les doses pour la Russie. Moscou doit donc encore passer des accords avec des laboratoires à l'étranger pour pouvoir livrer tout le monde. Et pour l'instant, de tels accords peinent à se mettre en place.
Mais en attendant, c'est un bel atout diplomatique pour la Russie, quand même.
Alors oui, hein, et d'ailleurs, le nom même du vaccin n'y trompe pas. Spoutnik, comme le premier satellite russe envoyé sur orbite autour de la Terre en 1957. Pour plusieurs diplomates internationaux, la course au vaccin de 2020 ressemble à la course pour l'espace des années 50. Moscou met en avant le prix peu élevé de son vaccin, entre 16 et 20 euros les deux doses, ce qui le rend très attractif pour les pays en développement et ce qui permet donc à la Russie d'étendre sa zone d'influence.
La brigade RTL signée Émilie Beaujard. Merci Émilie. 8h15 sur RTL. Dans un instant, vos fake news. Non, se faire vacciner ne menace pas le don du sang. Voilà ce que va nous dire Jean-Mathieu Pernin tout de suite.
RTL Matin.
Pour tout savoir des coulisses de l'info.
RTL Matin.
Jérôme Florin.
17 sur RTL. Bonjour Jean-Mathieu Pernin.
Bonjour.
On regarde ce qui se passe du côté des intox, des fausses infos avec vous aujourd'hui. Non, être vacciné contre le Covid n'empêche pas de donner son sang.
Et oui, alors un domaine échappera-t-il aux faiseurs d'intox ? Alors apparemment, ben non, je pense. Ainsi, depuis début avril, des publications très présentes sur les réseaux sociaux et notamment sur Facebook affirment que vaccins anti-Covid et dons du sang sont incompatibles, que les pires horreurs sont à prévoir si une goutte d'hémoglobine d'un vacciné se retrouve à couler dans les veines d'un non vaccinés et surtout qu'un pays est plus éclairé que les autres dans ce domaine, le Japon. Alors un message partagé plus de 30 000 fois sur Facebook explique que la Croix-Rouge du Japon aurait demandé aux personnes vaccinées contre le coronavirus de ne plus donner leur sang et c'est vrai, explique l'AFP factuel. Enfin, c'était vrai hein, le 22 février puisque depuis le 28 avril, les autorités nippones ont donné leur feu vert pour la possibilité de don du sang de personnes vaccinées. Aux États-Unis, les autorités de santé ont donné cette possibilité dès le 24 février. En France, le Haut Conseil de la Santé publique a recommandé dès le 2 février, je cite, qu'aucune exclusion, même très provisoire, ne soit effectuée pour un don de sang venant des personnes vaccinées contre le Covid-19, encore raté pour les faiseurs d'intox.
Il faut être prudent concernant les annonces sanitaires venant du Japon.
Oui, parce que les autorités japonaises sont particulièrement bien prudentes concernant le sanitaire, ainsi comme l'expliquent le Figaro et l'AFP, avant de mettre sur le marché un vaccin ou un médicament, le pays impose des essais cliniques supplémentaires sur son territoire, même si le produit a déjà été validé par des études cliniques ailleurs dans le monde. Alors d'où cette prudence sur le don du sang et ce malgré que d'autres pays l'aient autorisé. Concernant donc ce don du sang, il existe bien sûr des cas particuliers, mais ce ne sont pas les plus nombreux. Par exemple, il faut attendre 4 semaines après une injection contre la fièvre jaune ou la rougeole pour pouvoir donner son sang.
Bon, c'est comme difficile de comparer la situation vaccinale au Japon avec les autres pays.
Et oui, pour une raison simple, c'est que le Japon a commencé à vacciner début février, donc assez tardivement, et ce mélange de défiance et de ralentissement bureaucratique pénalise la troisième économie mondiale. Il faut se rendre compte que seul 2% de la population japonaise a reçu une première dose au 28 avril, contre 45% aux États-Unis, 23% en France. Seul le vaccin Pfizer-BioNTech est autorisé. Alors à 2 mois et demi des Jeux Olympiques de Tokyo, il y a comme un doute dessus, mais il sera difficile pour le Japon de se retrouver sur le podium de la vaccination.
Les fake news, Jean-Mathieu Pernin, merci, à demain Jean-Mathieu, 8h20 sur RTL.
RTL Matin.
RTL Matin.
Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
Et il est là avec son polo rouge. Bonjour Michel.
Bonjour Jean.
Ce matin, vous fouillez dans le panier de courses des auditeurs. Vous espérez trouver un maximum de produits bio.
Oui, sans rentrer dans la polémique des différents labels bio, on peut simplifier les choses en arguant que moins on utilise de pesticides de synthèse ou d'engrais chimiques, et meilleur c'est pour la santé. Alors les Français ne s'y trompent pas, qui plébiscitent cette nouvelle manière de consommer et le feraient sans doute avec encore plus d'entrain pour des raisons sanitaires, environnementales, gustatives, éthiques, s'il y avait un hic. Et le hic, Jérôme.
Et le hic, je parie que c'est le prix.
Et oui, nous sommes tous pour le bio, mais pour les 4/5 des Français, c'est trop cher. Alors quand on ne peut pas consommer bio à 100%, il y a intérêt à choisir les produits qu'on achètera bio et ceux sur lesquels on s'abstiendra. Parce que franchement, pour certains produits, ça vaut vraiment le coup de faire un effort.
Et quels sont les aliments qu'il faut manger bio en priorité ?
Alors on va prendre 5 produits. Mmh. On va commencer par le lait. Alors certes, on trouve autant de calcium et de protéines dans les deux versions, la bio et la classique. En revanche, pour les vitamines, notamment A et E, il vaut mieux opter pour le bio, parce que dans ce cas, l'animal producteur, qu'il s'agisse d'une vache, d'une chèvre ou d'une brebis, est censé avoir été nourri avec un fourrage naturel. Conséquence, pas de résidus de pesticides ou d'antibiotiques. Autre produit qui vaut la peine d'être consommé bio, c'est l'œuf. Oui. La version bio est 2 à 3 fois plus chargée en oméga 3 et en vitamine A, D et E. Par ailleurs, les œufs bio proviennent de poules élevées en plein air, donc qui ne passent pas leur temps dans les déjections de leurs petites copines, comme c'est le cas quand elles sont les unes sur les autres dans les cages, ce qui réduit le risque de contamination, notamment par la salmonelle.
Alors, je propose de passer au plat de résistance.
Eh bien, le poulet, mon cher Jérôme, un classique du repas familial. Bio, il est élevé pendant 80 jours, soit 2 fois plus longtemps que ses collègues conventionnels. Ça donne moins de mauvaise graisse et plus de muscles, donc de bonnes protéines, pas d'antibiotiques. Pas d'hormones.
Et dans la catégorie légumes, il faut privilégier quel produit ?
Eh bien, la salade. À l'inverse de nombreux légumes, on ne l'épluche pas. En version classique, vous êtes sûr de faire le plein de pesticides. En version bio, vous limitez grandement les dégâts. Et puis, il reste le cinquième produit, c'est le fruit préféré des Français.
La pomme.
D'abord, parce que nous en mangeons beaucoup, quasiment toute l'année. Ensuite, c'est l'un des fruits, c'est pas le seul, il y a aussi les fraises, les pêches ou le raisin. L'un des fruits, donc, les plus traités. Elle passe à la moulinette de plus de 30 produits chimiques, donc autant la choisir bio, d'autant que ça permet d'en consommer aussi la peau, où se concentre un maximum de vitamines et d'antioxydants.
Donc la pomme et les œufs, pour le bio surtout.
La pomme et les œufs et la salade.
Et la salade. Merci beaucoup Michel.
À demain.
8h23 sur RTL, il vient de vendre 30 nouveaux Rafales à l'Égypte. Le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier, est notre invité dans un court instant.
RTL Matin.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Bonjour Éric Trappier.
Bonjour.
PDG de Dassault Aviation, merci beaucoup d'accorder RTL votre première interview et réaction officielle depuis votre méga contrat passé avec l'Égypte, la vente de 30 avions de combat Rafale pour près de 4 milliards d'euros. En janvier, la Grèce en achetait 18. Pour vous, au moins 2021, c'est une année faste.
C'est une année qui démarre bien, contrairement à l'année 2020, c'est plus facile. Et on a le succès de deux réussites déjà depuis le début de l'année.
C'est un gage de paix pour nous, cette vente dans cette région du monde un peu compliquée, entre les tensions au Sinaï avec la Libye. Qu'est-ce qu'on y gagne en termes de sécurité ?
On vend des avions de combat à des pays avec lesquels on a une relation stratégique. Quand je dis nous, c'est la France. Donc la France décide de ses partenariats stratégiques sur l'échiquier mondial, la diplomatie, la défense. Et nous, l'industriel, nous avons des pays avec lesquels nous avons l'habitude de travailler. Ce qui était le cas de la Grèce, qui avait déjà des Mirage 2000, et l'Égypte, qui a déjà aussi des Mirage 2000. Donc nous nous inscrivons dans une politique stratégique du pays.
Est-ce que vous comprenez la colère de certaines ONG qui dénoncent l'armement d'un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme ?
Écoutez, chacun a le droit de s'exprimer. La réalité, c'est le pouvoir politique français qui décide de ce qui est bon pour la France en termes stratégiques. Et je crois qu'aujourd'hui, la relation entre la France et l'Égypte est une relation forte qui a été exprimée d'ailleurs par la ministre de la Défense sur les sujets, par exemple, contre le terrorisme.
En termes d'activité, d'emploi, ça représente quoi ? Des embauches en plus sur le site de Mérignac, ces 30 Rafales qui viennent d'être commandées ?
Non seulement ça permet d'avoir une charge de travail au sein de Dassault Aviation, mais ça permet surtout à tout l'écosystème qui travaille derrière le Rafale, c'est-à-dire nos grands partenaires, Thales, Safran, mais les 400 entreprises qui sont sous-traitantes, d'avoir cette charge de travail, 7000, dans un moment où l'aviation civile est plutôt en crise, compte tenu du Covid, c'est une très bonne nouvelle pour l'écosystème de l'aéronautique.
Quand vous dites écosystème, vous parlez de toutes ces PME.
Toutes ces entreprises qui irriguent le territoire français.
D'autres pays sont en train de renouveler leur flotte. Il y a la Finlande, il y a la Suisse. Ils doivent se décider avant la fin de l'année. Vous pensez l'emporter, là, aujourd'hui ?
Écoutez, on y travaille, en tout cas. On fera tout pour le faire et pour gagner une nouvelle victoire pour le Rafale.
Mais pourquoi vous plutôt que d'autres, puisque la concurrence, elle est rude. Il y a Boeing, il y a le Suédois Saab, il y a l'Européen Eurofighter. Pourquoi ?
Le Rafale est à maturité. C'est un avion polyvalent, c'est-à-dire qui est capable de faire tout type de mission, qui est finalement un des plus petits de cette taille pour faire toutes ces missions-là. Et puis, il est français. Il est français, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est ni américain, ni russe.
Vous avez mis du temps à le vendre, ce Rafale. Ça s'est vraiment débloqué en 2015 avec les
Ça s'est débloqué justement avec l'Égypte. Il était un petit peu en avance sur son temps. Il est rentré dans les forces armées dans les années 2000. Et donc, par conséquent, il fallait attendre que l'armée de l'air française soit opérationnelle avec cet avion. Elle avait le Mirage 2000. Ça a pris un petit peu de temps dans le développement, compte tenu de l'effort budgétaire qu'il faut consentir.
Alors justement, où en est ce projet d'avion de combat européen ? Ça fait des années qu'on en parle.
On en parle depuis l'arrivée du président Macron en 2017, oui. qui a voulu relancer une coopération avec les Allemands, à laquelle les Espagnols se sont joints. On a démarré une première phase d'études et nous sommes en finalisation de négociations de la poursuite de ces études. Je pense que très bientôt, nous aurons le lancement de ces nouvelles études qui doivent aller jusqu'à un démonstrateur technologique qui volerait en 2026.
Ouais, donc un prototype en 2026, c'est l'objectif. Donc c'est bien parti.
C'est bien parti, les discussions ont été rudes, vous le savez, il a fallu se partager le travail, il a fallu assurer la manière dont la France et Dassault seraient maîtres d'œuvre de l'avion de combat. C'est aussi un grand système dans lequel Airbus a d'autres responsabilités. Oui. Et donc, il fallait bien partager ce travail. Ça a été une phase assez compliquée.
Parce que Angela Merkel, elle a semblé remettre un peu en cause le leadership français. Donc, on s'est dit, bon, il y a beaucoup d'acteurs, ça a l'air un peu compliqué.
Nous, ce qu'on pense, c'est que dans toute coopération, il faut une bonne organisation. Sinon, on ne va pas faire un bon avion. Et donc, pour ce faire, dès le départ, la France avait revendiqué le rôle de leader au titre de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire du responsable des États, et au titre de la responsabilité de l'avion. Et ça, c'est Dassault qui prenait cette responsabilité de maître d'œuvre.
Donc, j'insiste, Éric Trappier, cet avion de combat européen, il verra le jour.
Écoutez, le démonstrateur verra le jour, ces études vont être signées, on l'espère tous, donc on va voir comment ça se passe dans les heures qui viennent.
2021 néfaste pour Dassault, on le disait, vous lancez aussi un nouveau Falcon, le 10X. Alors, c'est pas le pire moment pour lancer un avion d'affaires aujourd'hui ?
Non, parce qu'on travaille dans le cycle long. Vous savez, nous, chez nous, on a un œil sur le court terme, pour regarder où on marche, éviter de chuter, puis un œil toujours sur l'horizon, sur le long terme. Le court terme, c'est la crise, mais en réalité, on a lancé cet avion-là un petit peu avant la crise et il doit arriver en 2025. Donc 2025, on sera en gestion post-crise.
Et, on l'espère, en tout cas.
On l'espère, bien sûr, mais déjà, on peut le voir aux États-Unis, en Asie et même en Europe, des prémices de relance. Et par conséquent, il faut être prêt pour que cet avion qui finalement soutient l'économie, c'est un avion, quand l'économie va bien, on vend bien des avions. Donc alors, ça veut dire que ça soutient le business.
Parlez-nous un peu de cet avion. Je pense qu'il peut voler sans s'arrêter 14 000 km.
Oui, il peut faire New York-Shanghai, pour vous donner un ordre de grandeur, donc pratiquement aller à l'autre bout du monde. C'est un avion qui est fait pour les cadres des grandes entreprises, pour les hauts dirigeants, et qui ont besoin de se déplacer en toute sécurité, qui ont besoin de se déplacer rapidement, qui continuent de travailler dans l'avion avec leurs équipes et qui peuvent se reposer dans l'avion, dormir, manger. En réalité, c'est pratiquement un appartement volant, au-delà même d'être un bureau volant.
Éric Trappier, parlons de la crise, hein, vous l'avez évoqué rapidement, vous êtes depuis quelques semaines le nouveau patron de lui-même, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Cette crise, elle a montré notre dépendance totale à certains grands pays producteurs, en ce qui concerne notamment les semi-conducteurs. Alors c'est un peu technique, mais ce sont des composants électroniques qui ont privé de production des groupes comme Stellantis, qui regroupe des grandes marques, les marques PSA, Fiat Chrysler notamment, qui n'a pas pu construire 200 000 véhicules au premier trimestre à cause de cette pénurie. Est-ce que ce sera pire au deuxième trimestre ?
L'industrie a toujours été un enjeu stratégique pour chaque pays. Donc l'industrie est un enjeu stratégique pour la France et pour l'Europe. On doit donc se battre pour l'innovation. Parce qu'en France, par exemple, on ne fera et on aura des emplois qualifiés que si on fait des produits à haute valeur ajoutée. Donc c'est l'innovation qui tirera l'industrie et c'est fondamental.
Mais aujourd'hui,
pour
on ne produit pas. C'est
alors, l'innovation permet de définir des produits. Il faudra être capable de les fabriquer en France. C'est ce que nous faisons, par exemple, chez Dassault. Et ça, c'est grâce aussi au numérique. La révolution numérique va permettre à la fois de concevoir et de fabriquer. Et il faut trouver les conditions d'environnement qui permettent justement à l'industrie de se développer dans un pays où même la main-d'œuvre est chère, mais qu'elle est de bonne qualité.
C'est ça que vous dites.
Oui, oui, absolument. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut avoir une compétitivité face aux grands acteurs mondiaux que sont les États-Unis d'un côté, la Chine et bien d'autres pays.
Baisser massivement les impôts de production.
Il faut baisser les impôts de production.
C'est déjà fait. 20 milliards de baisse pour cette année, l'année prochaine.
C'est une bonne nouvelle. Il faut travailler à cette compétitivité. Il faut aussi travailler à l'harmonisation en Europe, parce qu'il ne faut pas avoir des différentiels sociaux ou fiscaux entre nous au sein de l'Europe. Et il faut être capable d'avoir des produits de très bon niveau. C'est l'innovation. Et indépendamment même des coûts du travail, ça permettra à la France de se développer.
Merci beaucoup Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation. Merci d'avoir été notre invité ce matin en direct sur RTL. Il est 8h33. À tout de suite.
RTL Matin.
Louis Baudin. Oui. Bon alors aujourd'hui pas terrible, demain non plus, après-demain non plus.
Non, là on est parti pour une semaine absolument pas au niveau de ce qu'on peut espérer au mois de mai, ça c'est clair. Bon alors on l'a vu, on a de la sécheresse, donc ça va être ça la bonne nouvelle. On va dire qu'on va atténuer la sécheresse de surface avec ces précipitations qui vont donc circuler sur la France. Alors sous forme d'averses, en plus en matière de prévision c'est compliqué. Ce ne sont pas des belles perturbations parce que ça c'est facile, je les suis, je vous dis voilà il pleut. Non, là c'est de l'instabilité, ça veut dire que c'est globalement la même masse d'air qui tourne et retourne sur la France, qui s'accompagne par moments d'éclaircies, parce qu'il y en aura quand même, et puis à d'autres d'averses. Alors quand on regarde une journée, il y a en général un temps un peu plus calme le matin, plus agité l'après-midi, avec ces averses qui concerneront quasiment toutes les régions à un moment ou un autre, pas toute la journée. Il y en aura peut-être un petit peu moins dans le sud et un peu moins mercredi également, quand je regarde une projection sur la semaine. Et pour les autres jours, il ne faut pas se faire d'illusions, on prendra le parapluie tous les jours, ouais. Et à un moment de la journée, il servira. Il sera parfois accompagné d'orages, notamment dans les régions de l'Est, et puis on aura peut-être quand même un petit peu moins près de la Méditerranée. Et encore, on va affiner ça de jour en jour. Mais il y en a au moins jusqu'au week-end prochain.
Au moins, donc ah week-end inclus. Oh là là.
Inclus, malheureusement.
Eh ben oui, partez, je vous l'avais dit. Oui,
ben, d'accord.
Allez, okay. Merci Louis. 8h36.
Vous êtes comme ça.
Allez, direction la Baie de Somme. Ce matin, RTL vous emmène à la découverte d'une pratique ancestrale de notre terroir depuis le 15e siècle, l'élevage des agneaux de prés salés. Bonjour Mourad Jabari.
Bonjour.
Vous avez passé la journée avec Laure Poupard, elle est bergère depuis 2 ans. Et tout commence forcément tôt le matin à la bergerie, Mourad.
C'est à l'heure de la rosée du matin, lorsque le soleil commence peu à peu à percer l'épais brouillard qui recouvre les prés verdoyants cerclant la bergerie, l'heure où Laure donne au nouveau-né le premier biberon de la journée.
Viens, mon bébé.
Bah oui. Bibou, bois, t'es tout maigre.
On commence toujours par donner les petits biberons aux bébés qui ont des mamans qui n'ont pas de lait. On dit bibou, bibou. Et ils savent que c'est l'heure du biberon.
Ils ont de l'appétit. Hein.
Oui, ils sont pressés. Biberon du matin, attention. Hein.
C'est pour ça qu'ils font beaucoup de bruit, ils le réclament.
Dès qu'on rentre dans la bergerie, les agneaux comme les brebis savent que ça y est, ça va être l'heure du repas.
Et ils ont des petits noms?
On a des petits surnoms, mais c'est pas des beaux petits surnoms. Lui, il était tout ridé à la naissance, donc on l'a appelé petit ridé.
Il est toujours un peu ridé. Hein.
Voilà. Après, il y a les gros. Ça reste très basique, mais on les comme ça.
C'est pas trop compliqué de ne pas trop s'attacher parce que vous les voyez quand même tous les jours,
ouais.
Vous leur donnez le biberon.
Justement, les biberonneux, c'est dur. Alors tous les jours, on s'attache pas. On aime bien du coup les voir partir dans la baie parce qu'ils sont tranquilles après. C'est une autre ambiance.
Parce que là, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de sélectionner certaines brebis pour les emmener en baie?
On a attendu, il y a certains agneaux qui étaient un peu faibles, on n'a pas voulu les mettre dans la baie tout de suite. Et maintenant, ils ont bien grandi, donc ça y est, ils vont avoir droit de partir. Ah, il y a un agneau là, celui-là.
Ah, c'est une naissance?
Ouais, il est né ce matin.
Ah oui, on voit encore son cordon.
Ah, je suis contente.
Et comment on le baptise? Il est tout noir déjà.
On pourrait l'appeler Charbon. Donc Charbon, ça ira très bien.
Charbon.
Et là, on s'attache pas. Faut pas s'attacher. On a bien fini. Après, on a plus que le foin et l'eau à mettre.
Vu que vous avez presque terminé, on retrouve un peu de calme.
Ouais, il y a plus que les gros agneaux. Et après, ça sera le calme. Et on connaîtra un peu la bergerie qu'on voit dans les films. Toute tranquille.
Et après avoir nourri les 400 brebis et agneaux, direction les prés salés de la Baie de Somme, où ils vont pâturer jusqu'au mois de juin, 75 jours au minimum, hein, Mourad.
Oui, une vie rythmée par les déplacements du troupeau et des marées, mais aussi du vent, du froid, de la pluie ou du soleil. Laure marche parfois les bottes dans la vase plus de 20 km par jour.
On s'est quitté dans la bergerie, on se retrouve dans votre deuxième bureau. Oui. La baie de Somme, avec exact. Un cadre assez incroyable, assez exceptionnel.
Donc là, on va longer tous les rios, donc les courants de la baie, pour voir s'il n'y a pas des brebis dans les ais ou des agneaux. Et on va tout doucement rapatrier les brebis les plus éloignées vers le parc. Et comme ça, on va pouvoir les rentrer tranquillement en fin d'après-midi.
C'est ce qu'on a sous nos pieds, là, cette herbe que les brebis broutent, et c'est ce qui fait le pré salé.
L'herbe vraiment spécifique, c'est la pulcinelle. Donc c'est celle-là, c'est le petit gazon de la baie. Les herbes vont toujours avoir ce petit goût salé. Et c'est vraiment ça, ouais, qui va donner le goût caractéristique, un gras persillé.
Dans cette grande étendue, vous avez 3 chiens qui sont un peu plus loin, qui vous aident à regrouper le troupeau.
Ouais. Bah, les chiens sont vraiment essentiels. Allez ma belle, va à gauche là-bas. Va chercher, passe à gauche. Allez.
Vous êtes originaire d'ici, d'une famille de cultivateurs, mais vous avez quand même un gros parcours scientifique.
Mes parents ne voulaient pas forcément que je reste dans le milieu agricole parce que c'est un monde quand même assez difficile où on gagne pas sa vie, clairement. Mais donc j'ai fait un master océanographique et finalement...
Vous êtes revenu dans la baie.
Voilà.
Est-ce qu'on vous a reproché d'élever des agneaux et de les envoyer à l'abattoir?
Mais même mes amis, hein, elles m'ont dit comment tu peux réussir à mettre des agneaux à l'abattoir. Mais il suffit juste de comprendre finalement qu'on est des êtres humains, qu'on a toujours eu besoin de manger.
manger. Mais je vais être tellement fière à la fin de trouver les bonnes côtelettes dans mon assiette qui sont très bonnes. Je sais comment je les ai élevées et ça se ressent dans la viande.
Est-ce que vous êtes toujours heureuse de venir tous les jours?
Quand il pleut, je me dis toujours que je suis carrément mieux ici que dans un bureau. Je me sens vivante, quoi. J'aurais pas 2000 euros, 3000 dans ma poche. J'habite dans un endroit magnifique. J'ai pas de patron. Et en vrai, quand on prend le bon côté des choses, on se promène 8 mois de l'année. Je gagne moins, mais je vis mieux.
La liberté a un prix.
Voilà, c'est ça.
Vous êtes comme ça au grand air ce matin dans la baie de Somme. La baie de Somme, on a presque envie de dire. Très bel endroit pour passer par exemple le week-end de l'Ascension. Merci à notre guide berger du jour, Mourad Jabari. Reportage à retrouver évidemment sur votre application RTL.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Et ce matin, Isabelle Choquet, gros plan sur une femme de l'ombre, l'habilleuse d'Elisabeth II.
Oui, son habilleuse, sa conseillère, l'une des femmes les plus proches de la reine. Et vraiment, ce n'était pas écrit. C'est le Parisien Magazine qui nous raconte cette semaine l'histoire d'Angela Kelly. Elle est de Liverpool, mais c'est à Berlin qu'elle a croisé pour la première fois la famille royale. Nous sommes en 1992. Angela a une trentaine d'années. C'est une jeune femme d'origine modeste, fille d'une couturière qui recevait ses clientes dans l'arrière-cour. Elle a quitté l'école jeune, elle a tenu un kiosque à journaux quelques années. Et puis, elle a trouvé ce poste de gouvernante auprès de l'ambassadeur britannique en Allemagne. En ce mois d'octobre, grosse émotion, Elisabeth et le prince Philippe sont de passage à Berlin. Ils font escale à l'ambassade. Et en repartant, le prince demande à Angela qui sont les prochains invités. Mais elle refuse de lui répondre, secret professionnel. Alors, le prince Philippe insiste, mais vous pouvez certainement le préciser à sa majesté. Rien à faire. De la loyauté, du caractère, voilà, qui impressionne les Windsor. Et quelques temps plus tard, Angela reçoit un coup de fil. Ça vous dirait de travailler à Buckingham? C'est l'habilleuse de la reine qui est sur le point de partir en retraite. Voilà comment Angela Kelly arrive à la cour en mars 94 avec son physique de Madame Tout-le-Monde, blonde et ronde, engoncée dans son tailleur. Pour s'acheter des vêtements corrects, elle a vendu sa machine à laver. Elle n'est pas de ce monde et on le lui fait bien sentir. Elle est divorcée, trois enfants et surtout, elle est catholique. Et puis, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Mais justement, c'est son franc-parler qui va plaire à la reine. Elisabeth a juste essayé de corriger son accent scouse, l'équivalent du ch'ti outre-Manche, sans succès. Ça ne l'a pas empêché de faire son chemin, jusqu'à devenir assistante personnelle et conseillère de sa majesté pour les bijoux, les insignes et la garde-robe. Miss Kelly, comme on l'appelle, recrute les designers, elle sélectionne les étoffes et surtout, c'est elle qui procède aux essayages. Et comme elle chausse la même pointure que son Altesse, c'est elle aussi qui porte en premier les escarpins neufs pour les assouplir et éviter de royales ampoules. En quelques années, elle révolutionne le dressing royal, finit les imprimés très 70s, place au tissu uni. Elle fait disparaître les volants, elle raccourcit un peu les manteaux et puis elle imagine des chapeaux un peu foufou avec des plumes, des fleurs, des diamants. Surtout sous son influence, la reine assume son goût pour la couleur qu'elle porte en total look, c'est-à-dire de la tête aux pieds. C'est à elle qu'Elisabeth doit son surnom de reine arc-en-ciel. Le tailleur jaune prime vert du mariage de William et Kate, c'est elle, tout comme l'ensemble rose pâle aux courses hippiques d'Ascot ou la tenue citron vert des noces de Harry et Meghan. Ah oui, c'est oui, ça aussi. Mmh. C'est sur son idée que la reine a fait sa première apparition au premier rang d'un défilé de mode à Londres. C'était il y a 3 ans. Et puis, il y a eu en juin 2017 ce chapeau bleu surmonté de fleurs jaunes. Tout le monde a cru voir dans le Royal Bibi, vous vous en souvenez, une référence au drapeau européen. Oui. Coïncidence, dit l'habilleuse, il n'y avait aucun message anti-Brexit.
C'est cela, oui.
De fil en aiguille, c'est le cas de le dire, Angela est devenue indispensable à la reine qui affirme, et c'est déjà beaucoup, je pense que nous formons une belle équipe. La fille du Nord rassure son Altesse, elle la fait rire aussi, ce n'est pas rare de les entendre s'esclaffer derrière une porte. Elle est la seule à avoir une telle intimité avec Elisabeth II, dit un biographe, à part ses dames de compagnie. En vérité, si l'une n'était pas reine, elle serait probablement amie, tout simplement. L'habilleuse de la reine, portrait complet à lire cette semaine dans le Parisien Magazine.
Merci beaucoup Isabelle Choquet, à demain. Donc les chapeaux foufous de la reine, c'est elle, Angela Kelly. On a retenu son portrait, merci, à demain. 8h44, bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Jérôme.
Vous savez que vous avez une mission chaque matin, nous faire rire.
Ouais, on va essayer.
On va essayer.
Mais l'actualité foisonnante.
Nous faire rire le plus sérieusement du monde. A tout de suite.
A tout de suite.
RTL Matin.
RTL Matin.
Jusqu'à 9h30 avec Jérôme Florin.
Alors bonjour Laurent Gérard et bonjour Jade.
Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. En ce 10 mai, jour anniversaire de l'élection de François Mitterrand à l'Élysée, le président Emmanuel Macron a reçu une bien étrange visite dans le secret de son bureau présidentiel.
Emmanuel. Emmanuel. Oui, c'est qui? C'est toi, Brigitte? C'est moi, Emmanuel. François Mitterrand. Le seul président immortel de la Ve République. Dis-moi, Emmanuel, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Tu n'as rien oublié dans ton agenda? Ah ouais, d'accord, t'as compris. Il y a la victoire de la gauche en 81, c'est ça. Mais moi, j'avais 4 ans en 81. Je me souviens juste de Georges Filloux qui avait dit que le club Dorothée, c'était giscardien. Ça suffit. Quand je vois que tu vas t'incliner aux Invalides pour ce médiocre Napoléon Bonaparte et que tu ne fêtes même pas les 40 ans de mon arrivée au pouvoir. Mais Napoléon, c'est lui qui a créé le code civil, les préfets, la Légion d'honneur. Et moi alors? J'ai pas eu besoin de la campagne d'Égypte pour construire une pyramide. Et puis, moi j'ai créé la semaine de 39 heures et le musée de Jarnac. Ouais, mais Napoléon, il a une route à son nom, lui. Oui, mais moi, mon nom, j'ai une grande bibliothèque, une bergerie à Latché, trois collèges et une passerelle au Creusot TGV. Et en plus, j'incarne les forces de progrès. Oh, les forces de progrès, c'est tout ringard. C'est pour les boomers de gauche. En 2022, ce qui va marcher, c'est les forces de droite. Nigo, si tu avais lu mes biographies, tu saurais que je suis aussi de droite. Si tu veux être réélu, ce qu'il faut, c'est brouiller les pistes. Un jour, tu cites Chardonne à Bousquet. Un autre jour, tu vas au concert de Touche pas à mon pote avec Harlem Désir. Ah ouais, cool, c'est du... Et en même temps. C'est ça. Au fait, à propos de droite, tu les as bien mis dans le pétrin, hein, là, je te félicite. Maintenant, tu dois offrir la proportionnelle à Marine. J'ai bien connu son père, c'était pas un mauvais bougre. Toujours prêt à donner un coup de main. Mais pour réussir, tu dois avoir des artistes avec toi. Tiens. Il y en a une qui a l'air pas mal, c'est Camélia Jordana. Elle a une bonne tête de soutien, celle-là. Hein? Donne-lui une breloque républicaine, ça va l'amadouer. Ah oui, mais moi je préfère Indochine et Sardou. Tu n'as qu'à te forcer un peu. Tu crois peut-être que ça m'amusait de recevoir Barbara, Islin et Balavoine? Mais surtout, si tu veux faire un deuxième septennat, n'oublie pas de présenter ta fille cachée à Paris Match, Marlène Schiappa. Tu n'as qu'à dire que tu l'as eue avec Rutel Krief. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais j'ai pas de fille cassée et Brigitte, elle va me disputer. Ta Brigitte, elle se mêle de tout. Il y a longtemps que tu aurais dû faire comme moi avec Daniel. Quand elle me cassait les pieds, j'envoyais tricoter des pulls pour les guerrilleros. Et si tu veux entrer dans l'histoire comme moi, n'oublie jamais la maxime que Napoléon m'a empruntée. On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus.
Marine Le Pen en est convaincue et l'affirme désormais haut et fort. Elle sera élue présidente de la République en 2022. Bonjour Madame Le Pen.
Bonjour Madame.
Vous dites être la seule à pouvoir rétablir la paix civile. Mais comment fait-on pour rétablir la paix civile en prônant des idées nationalistes?
Mais c'est très simple Madame, en conciliant autorité et bienveillance. On accompagne tous les Rastaquouères à la frontière, on leur fait un bisou avant de partir et on leur offre un paquet de Chocobén pour la route.
Bon, bah, si vous faites ça, vous aurez tous les médias sur le dos.
Eh bien là encore, madame, je réglerai le problème en conciliant autorité et bienveillance. En arrivant au pouvoir, je préviendrai gentiment votre corporation de fouille-merde que le premier qui me critiquera se retrouvera au Niouf, dans la même cellule que Dupont de Ligonnès que nous aurons enfin retrouvé grâce à notre milice nationale.
Eh ben, c'est gentil de prévenir, merci. Vous affirmez aussi vouloir construire un gouvernement d'union nationale. Est-ce à dire que si vous gagnez, Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
Mais absolument, madame. Ma porte sera grande ouverte.
Bien soit, je vous prends au mot. Imaginons que, bon, bah, je dis un nom au hasard, Nicolas Sarkozy veuille se joindre à vous. Vous le prenez ?
Mais tout à fait. Je lui offrirai volontiers un poste de nain de jardin sur la pelouse de l'Élysée. D'ailleurs, si François Hollande veut se joindre à lui pour faire livreur à scooter, il est le bienvenu, madame.
Et Ségolène Royal, vous la prenez ?
Mais elle est bienvenue, elle aussi. J'ai justement l'intention de planter des arbres fruitiers dans le jardin de l'Élysée. Et j'aurais besoin d'un épouvantail à moineaux.
Bon, ben ça va, j'ai compris. Je tourne la question autrement. Si vous êtes élu, qui mettez-vous à Matignon ?
Eh bien, si Éric Zemmour refuse l'invitation, ce sera Adolphe.
Adolphe ?
Oui, Adolphe, le berger allemand de papa.
Les cinémas et les théâtres rouvrent la semaine prochaine. Bonjour Roselyne Bachelot.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, vous êtes contente ?
Oh là là, bonjour, mais bien sûr que je suis contente. Je vais enfin pouvoir me débarrasser des acteurs à pull en col V, des actrices à cheveux gras et des metteurs en scène à catogan qui squattent mon bureau pour se plaindre. Dès la semaine prochaine, adieu les cons.
Enfin, c'est ainsi que vous parlez au monde de la culture ?
Mais non, mais non. Adieu les cons, c'est le titre du film d'Albert Dupontel que je vais aller voir dès la réouverture des salles pour montrer l'exemple.
Ah bah j'ai eu peur. Hormis les cinémas et les théâtres, les événements de plus de 1000 personnes et les festivals seront soumis au pass sanitaire.
Mais oui, mais oui, la bonne idée. Alors, bon, je sais que vous allez me dire, il n'y a que les vieux qui sont vaccinés. Hein ?
Oui.
Mais c'est pas grave, on va s'adapter au public des seniors. Frédéric François chantera aux Eurockéennes, Franck Michael au Hellfest, et on fera venir André Rieu et son orchestre à Rock en Seine.
Ah oui.
Et c'est pas tout. Les vieilles charrues vont devenir les vieilles morues, et Solidaise ne sera plus au profit du sida, mais des fuites urinaires. Et voilà.
Ouh là là, mais alors les jeunes, ça les pénalise, d'autant que les boîtes de nuit vont rester fermées.
Mais non, mais non. Même s'ils ne sont pas vaccinés, les jeunes auront le droit au pass sanitaire. Il suffit d'un résultat négatif pour le valider. Et vu qu'ils n'ont encore rien glandé cette année à l'école, les résultats négatifs, c'est pas ça qui va manquer au bac.
Salut, c'est Jacques.
Ah, bonjour ah. Jacques Lang. Qu'est-ce qui nous vaut cette visite surprise ?
J'écoute votre antenne depuis 4 heures du mat. Et qu'est-ce que j'entends en ce 10 mai 1981 ? Mitterrand par-ci, Mitterrand par-là, Mitterrand, Mitterrand, Mitterrand.
Oui, bah c'est un peu normal, c'est l'anniversaire des 40 ans de son accession au pouvoir.
Mais enfin, qui était derrière François Mitterrand ? Bibi.
Ah bon ?
Oui. Je vous fais le récapitulaire. L'Opéra Bastille, la pyramide du Louvre, les colonnes de Buren, oui, la cité de la mode, tous les grands travaux, c'est moi. Et les grandes réformes qui ont changé la vie du peuple, c'est moi aussi.
Ah d'accord.
Les tremplins rock, la technoparade, la fashion week, le rap, le tag, le graphe, le printemps des poètes, les 5% de réduction sur les livres à la FNAC, la peine de mort.
Ah non, non, non. La peine de mort, c'est Robert Badinter.
Mais pas du tout, ouais, n'affiche à tout. C'est moi qui lui ai soufflé l'idée.
Ah.
Oui, si. Nous étions allés voir Un condamné à mort s'est échappé dans la version de 5 heures d'Ariane Mnouchkine avec Laurent Terzieff qui postillonnait sur les premiers rangs. C'était tellement chiant. Un condamné à mort s'est échappé que j'ai suggéré à Badinter d'abolir la peine de mort une fois pour toutes. Alors, n'en déplaise au Mitterrand idolâtre. Le 10 mai, c'est aussi ma fête, merde.
Merci Bibi.
Bibi est remercié. Et puis on embrasse Yves Calvi, bien sûr.
Absolument, merci voilà. Beaucoup.
Mais oui, on embrasse Yves Calvi, qui me doit tout.
Merci Laurent, à demain. Merci Jade, à demain.
À demain.
Dans un instant, Cyril Lignac.
RTL Matin, Jérôme Florin. RTL Matin, Jérôme Florin.
Bonjour Cyril Lignac.
Bonjour Jérôme.
Alors, on a un chou tranché blanc bio que l'on voudrait farcir. Avez-vous une recette pour nous, Cyril, s'il vous plaît ?
Alors, j'adore le chou farci. Déjà, ouais. C'est une recette traditionnelle de chez moi dans l'Aveyron. Et j'ai appris vraiment à le faire avec une maman. Et donc, du coup, il nous faut une demi-botte de persil, une carotte, un oignon et une gousse d'ail. On le passe dans le mixeur et on mixe tout ça, ça nous fait le début de la farce.
Oui.
À côté, on prend 100 grammes de pain, alors du pain qui nous reste de la veille. On prend plutôt la mie de pain que l'on trempe avec un petit peu de crème liquide.
D'accord, et ça va épaissir un peu.
Et ça va nous permettre d'avoir l'onctuosité. Oui. Ensuite, on prend 500 grammes de viande hachée, alors du veau et du bœuf. On peut prendre aussi du porc, on fait comme on veut en fait. L'essentiel, c'est d'avoir de la viande. Si on met du bœuf, on ajoute toujours du veau pour avoir quelque chose de tendre. Et à ça, on ajoute 2 œufs entiers. Donc là, on mélange toutes les herbes et les aromates, 100 grammes de pain, la viande et les œufs. Et là, on mélange à la main. Ça nous fait le début de la farce.
Et le chou, il intervient quand là-dedans?
Et le chou, on le prend, ouais. On le cuit dans de l'eau, les feuilles avec les côtes. Et ensuite, une fois qu'on l'a bien cuit, on prend un plat à gratin. Et là, on va le faire comme une lasagne. Alors, je vous donne une recette hyper simple. Comme ça, c'est facile à faire à la maison. On prend un plat à gratin. On met d'abord de la farce, dessus le chou, encore de la farce, encore du chou. On monte vraiment comme une petite lasagne. Mmh. Et à côté, ma petite astuce, c'est qu'on prend un coulis de tomates. On verse dessus pour terminer. On peut mettre un petit peu de chapelure. On met au four à, j'ai envie de dire, 180 degrés pour que ce soit un peu gratiné. Et on cuit pendant 35 minutes.
D'accord. Et on ajoute ensuite quelques feuilles.
Et ensuite, dessus, on peut terminer avec quelques petites herbes. S'il nous reste un petit peu de feuilles de chou, on a cuit. On les dépose juste dessus. Et là, on le sert. Et donc, on va avoir les tranches et la viande. On va avoir la tomate qui enrobe le tout. Et ça, c'est hyper bon et hyper facile.
Et on se régale. Et on retrouve ça sur RTL.fr. Merci beaucoup, Cyril. À demain.
Merci. Au revoir, Jérôme.
Il est 9h sur RTL.
RTL Matin, Jérôme Florin.
Le point sur l'info avec vous, Olivier Bois.
Et d'abord ce coup de filet, 5 jours après la mort du brigadier Éric Masson à Avignon. 3 personnes, notamment le tireur présumé, ont été interpellées hier soir. Information RTL, 2 nouvelles interpellations ce matin des personnes soupçonnées d'avoir caché les suspects. Tension très vive à Jérusalem, des affrontements en cours entre Palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées. Des affrontements qui ont fait des centaines de blessés. La situation était extrêmement tendue depuis plusieurs jours maintenant. Et puis en football, à l'issue de la 36e journée de Ligue 1 hier soir, Lille fait un pas vers le titre et compte désormais 3 points d'avance sur le PSG, qui n'a fait que match nul hier soir, 1-1 face à Rennes.
Merci beaucoup Olivier Bois, il est 9h02.